Oui, parce que je ne l'ai pas vu hier soir, du coup j'ai zappé la pause. Oui, alors je vous présente mes excuses. Hier soir j'ai zappé la pause. Je crois que j'étais tellement décidé à être en pleine forme, oui, tellement concentré sur l'objectif que j'ai oublié de faire la pause hier soir. Donc on fera la pause ce matin, croyez-moi. Je compte sur Luc pour m'aider à m'indiquer le temps de la pause. Voilà. Quelque chose qui vous a parlé hier, quelque chose qui vous a touché, quelque chose que vous voudriez nous dire, c'est une manière de reprendre le train par rapport à hier. Hein? Alors, quelque chose qui vous a parlé, qui vous a marqué. Oui. C'est vrai que c'est super, hein, c'est de voir la Trinité, en fait, déjà dans Luc 15. Au travers de cette parabole unique, en triptyque, hein, d'accord? Avec, encore une fois, hein, Jésus est remis en cause, celui-là est même méprisé, en fait, et Jésus va reprendre le mépris et va prendre le mépris et en faire l'objet. Je ne sais pas si vous voyez le travail, en fait. Il part du mépris, il en fait l'objet d'une révélation sur la Trinité. De partir du mépris pour aller à la Trinité, il faut quand même le faire, quoi. Et ça s'appelle Jésus-Christ, quoi. Voilà. Un autre point. Oui. Oui. Dans nos vies, ouais. Oui. Exactement. Exactement. Ouais. Trouver en fait notre chemin n'est pas vers l'endurcissement de nos vies, mais plutôt vers la vulnérabilité de nos vies. C'est un chemin incroyable. La vie a tendance à nous endurcir, vous comprenez? Ça, c'est le chemin naturel d'une vie, c'est d'aller vers la souplesse de l'enfance, vers l'endurcissement, vers des formes de sclérose, en fait. Hein. Or, en fait, le chemin qui nous est demandé, c'est un chemin complètement inversé. C'est au contraire, ce vieillissement de nos vies, cette vulnérabilité, et j'en sais quelque chose aujourd'hui, cette vulnérabilité, ces faiblesses, en fait, sont des vertus, ne sont pas des problèmes. Les échecs de 2017 peuvent devenir une marche pour les réussites de 2018. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que nos échecs, nos faiblesses, nos manquements, sont des lieux où nous rentrons en contact avec la Trinité. Parce que quand nous sommes forts, nous n'avons pas besoin d'elle, en gros. Nous savons faire. Nous ne crions pas au secours, mais dans notre faiblesse, il y a une vertu. Et d'ailleurs, il y a un bouquin qui est sorti. Je ne sais pas s'il est sorti en français. Il me semble que oui. Et si ça vous intéresse, d'ailleurs, sur TED Talk, il y a une jolie conférence qui s'appelle Le pouvoir de la vulnérabilité. Hein, si vous prenez des notes, si ça vous intéresse ce thème, allez, prenez en note pouvoir de la vulnérabilité. Et cette femme qui parle de ce thème, une vingtaine de minutes, c'est Brené Brown. Et du coup, elle a écrit des bouquins, et je crois même qu'ils sont traduits en français. Il y en a un qui s'appelle Les bénédictions de nos faiblesses, en fait. Par le fait que dans la faiblesse, nous rencontrons plus facilement la Trinité. Et la Trinité peut nous rencontrer plus facilement dans nos faiblesses que dans nos forces, en fait. Il me semble que j'ai raté quelque chose là. Ah oui, et dans ce tableau, nous voyons ce passage de. Nous voyons le ces deux formes d'humanité, d'ailleurs, que l'on retrouve dans Galates, au chapitre 5. Vous savez que Galates était un peuple, d'ailleurs, on pense même que le mot gaulois vient de Galates, en partie. Hein. Ça serait intéressant de creuser cette thématique-là. Mais donc, du coup, les Galates étaient des gens que Paul avait évangélisés avec le message de la grâce. Et quand Paul revient, vous rappelez ce qu'il découvre? Il découvre deux formes de Galates, en fait. On trouve des Galates qui utilisent la liberté comme voile de leur méchanceté. C'est Galates 5, 14, je crois. Et puis, on a une autre partie des Galates qui se sont fait circoncire. C'est-à-dire que Paul est obligé de leur dire à ces Galates, mais vous êtes venus, qui vous a ensorcelés? Vous êtes comme ensorcelés parce que après avoir commencé par l'esprit, vous continuez dans la chair et finalement vous faites confiance à la loi pour devenir parfait. Autrement dit, dans ces deux catégories de Galates, on retrouve exactement les deux catégories de personnages que nous avons finalement dans le tableau de Jacques Tissot. Sur la gauche, nous avons ceux qui utilisent leur liberté comme voile de leur propre méchanceté. Et sur la droite, nous retrouvons ceux qui font confiance à la loi pour parvenir à une perfection personnelle. Vous comprenez ? Et nous verrons que, d'après les Écritures, la loi ne conduit rien à la perfection. Et en grec, rien veut dire... Voilà, super. Vous avez vraiment fait des progrès en grec depuis hier soir. Hein, franchement, je vous félicite pour vos progrès en grec. Hein. Et donc, rien que dans le chapitre 5 de Galates, on a ces deux manières de décliner finalement la même chair en fait. Chair au sens non pas du corps, mais chair au sens de nature humaine déchue, qui se prétend libre, mais qui en réalité, même si elle voulait accomplir une quelconque sainteté, elle ne pourrait pas y arriver en fait. En gros, c'est ça la chair. Et la chair, elle a deux visages. On croit toujours que la chair a le visage de ceux qui sont sur la gauche là. Hein. Toujours quand on parle de vivre selon la chair, on pense toujours aux gens de mauvaise vie, aux publicains. Mais la chair peut aussi décliner une autre version d'elle-même. D'ailleurs, quand elle n'arrive plus à décliner cette version de la liberté et de la méchanceté, elle va décliner une autre version d'elle-même. C'est juste la même version. Mais une autre version, c'est la même nature, je veux dire, mais une autre version de cette vieille nature qui est celle de la religiosité. C'est-à-dire qu'en gros, l'être humain, livré à lui-même, ça c'est une autre traduction qu'on trouve aussi dans la Bible du Semeur, par exemple, et que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que plutôt que parler de la chair, on parle de l'être humain livré à lui-même. Oui, c'est intéressant comme périphrase, parce que du coup, ça évite de pointer le corps, qui n'est pas le problème, en fait. Hein. Mais ça pointe une attitude de cœur intérieur qui fait que notre nature humaine déchue, l'être humain livré à lui-même, peut décliner donc cet livrage de lui-même à lui-même, soit d'un côté, soit de l'autre. Et on peut très bien comprendre qu'une fois qu'on a été abîmé dans le côté gauche, la tentation, c'est d'aller dans le côté droit. Parce qu'on va, penser que parce que la gauche, ce côté gauche a échoué, nous allons donc développer le côté droit. Maintenant, les amis, est-ce que c'est possible d'éviter cela ? À mon avis, non. Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'à mon sens, c'est impossible d'éviter finalement ce dualisme intérieur. Dans le sens où, si nous avons été tentés par le côté gauche, et nous venons du côté gauche, et personnellement je viens de ce côté-là, eh bien forcément notre nature humaine déchue, c'est-à-dire l'être humain livré à lui-même, va être tenté, va être séduit même. C'est une question de séduction. Va être séduit d'arriver à la sainteté par ses propres moyens. Et plus vous êtes doué, plus vous risquez justement de tomber dans un... Plus vous avez des points forts, plus vous allez utiliser vos points forts, pour justement accomplir cette sainteté, ou comme le dit encore dans le livre La Cabane, si vous l'avez lu, pas lu, je vous invite à le lire, de monter au sommet de soi-même. Hein. Vous voyez, nous sommes tentés de monter au sommet de nous-mêmes, de monter au sommet de nos potentialités, et là le grand danger, vous savez c'est quoi ? C'est que quand vous montez au sommet de vos propres potentialités, vous pensez que Dieu finalement, c'est celui qui est juste à l'étage au-dessus. Donc du coup, vous faites un Dieu à l'image de vous-même. Comprenez ? Et le problème, c'est que si vous faites un Dieu à l'image de vous-même, c'est-à-dire que vous imaginez que Dieu est juste celui qui est au-dessus de vous-même, ou pire, Dieu est celui qui est juste au-dessus, à l'étage au-dessus de vos propres parents, quelque part, eh bien, vous êtes fait une auto-image, et du coup, vous risquez d'être dans l'auto-image, et c'est ce qu'étaient finalement les scribes et les pharisiens, ils étaient dans une auto-image. Ils s'étaient fait leur propre représentation de Dieu. Encore une fois, vous m'avez entendu dire que personne n'a jamais vu Dieu. Je voudrais insister encore, mais insister. On n'insistera jamais assez. Personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est un seul, le Christ. Alors on se dit, mais alors à quoi ça sert les Christophanies ? Les Christophanies, c'est là pour ébranler des certitudes. D'ailleurs, je voudrais vous faire remarquer une chose. Abraham, ce fameux passage, vous savez, qui est quand même quelque part un peu choquant, de l'idée que Dieu, par exemple, puisse demander le sacrifice de son fils, Isaac. Il vient d'avoir Isaac et Dieu lui demande le sacrifice de son fils. Et Abraham, ok, si Dieu me demande, je vais le faire. Mais qu'est-ce qui fait qu'un homme à qui une divinité demanderait de sacrifier son fils consent quand même à y aller ? Je veux dire, imaginez le parcours psychologique, quoi. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire, à mon avis ? Et je vous propose cette lecture-là. Ça veut dire qu'au temps d'Abraham, l'idée d'offrir ce qu'on a de plus cher à Dieu faisait partie du paradigme. Vous êtes partie d'une idée très, très répandue du temps d'Abraham, que si on voulait la puissance, alors il faut lui offrir ce qu'on avait de plus cher. Et à ce niveau-là, excusez-moi, mais on n'est pas loin d'une forme d'occultisme. On n'est pas loin même d'une forme de satanisme. Mais, mes amis, comment voulez-vous que le culte à Dieu, dans des temps aussi éloignés, où le Christ n'était pas encore venu en personne, comment voulez-vous que même des patriarches aient eu une révélation de Dieu, alors qu'ils complètent à 100%, alors qu'eux-mêmes, ils baignaient dans des cultures qui étaient complètement paganisées, quelque part? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Et autrement dit, qu'est-ce que fait le Seigneur? Quelle est la stratégie du Seigneur? Le Seigneur va venir voir Abraham dans sa propre paradigme. Donc, ton paradigme à toi, Abraham, c'est que moi, Dieu, je pourrais te demander le sacrifice de ton fils. Alors, ok, on va faire ça, on va voir. Je te demande le sacrifice de ton fils. Alors, Abraham, il va pour sacrifier Isaac. Et au moment où il lève le couteau, le Seigneur lui montre qu'il n'est pas ce Dieu-là. Il montre qu'il n'est pas celui qui réclame le sacrifice. Il va montrer qu'il est le sacrifice. Changement de paradigme, boum! Et Abraham va comprendre quelque chose de complètement neuf. Vous voyez, c'est en ce sens-là qu'une christophanie ou une théophanie va confronter les gens dans leurs présupposés en ce qui concerne Dieu. Mais quand il s'agit de Christ, en aucun cas Christ a été en présence du Père et dit « Ah oui, maintenant je vois qui tu es, je vais aller leur dire qui tu es ». Non, il vient de l'intérieur du Père. Il est le Père en chair et en os. Hein, qui se fait chair au milieu de nous et qui va nous montrer l'exactitude de qui est Dieu. C'est pour cette raison que comparé aux révélations de ces gens qui ont vu Dieu de l'extérieur dans leur propre paradigme humain, on ne peut pas comparer, on peut pas comparer des patriarches qui, avec leur paradigme humain, voient le Seigneur, l'Éternel, de l'extérieur de leur vie, mais toujours quelque part dans leur propre paradigme. Souvenez-vous, les objections que font tous les gens qui ont vu le Seigneur. Ils sont pleins d'objections, toujours, toujours, toujours. Parce qu'ils sont confrontés à quelque chose qui n'est pas eux, qui est l'altérité totale. Donc ils sont confrontés avec leur propre manière de voir. On ne peut pas comparer, encore une fois, ce genre de révélation avec celui qui vient lui-même de l'intérieur du Père et qui va nous révéler qui est le Père en vérité. Ça ne peut pas être comparé. D'où l'affirmation de Jean, personne, vous comprenez, personne n'a vu Dieu, comme Jésus, lui, nous le montre. Voilà. Ça, il me semblait que c'était important de dire. Hein? Oui, Manu? Oui. Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Je pense que, exactement, je pense que, Oui, tout à fait. Je pense que ce soit Moïse. Oui, oui, peut-être justement que Moïse avait besoin de voir que Dieu n'était pas forcément uniquement le Dieu de la puissance brute, mais qu'il y avait aussi la douceur en lui, tu comprends? Oui, oui, exactement. Et du coup, il peut y avoir les deux, effectivement. Mais il fallait un rééquilibrage. Je pense qu'en fonction de chaque révélation, chaque christophanie ou théophanie est là pour rééquilibrer quelque chose dans le patriarche. Et puis d'amener une plus grande lumière, de plus en plus grande. Mais cette lumière, elle cumule, elle culmine, mais sans ombre en Christ Jésus. C'est ça mon point. Et donc, c'est pas une révélation plate qu'on doit avoir de Dieu, c'est plutôt quelque chose comme ça. Nous montons de patriarche en patriarche vers une révélation qui culmine en Jésus-Christ. Hein? Ça, c'était mon point. D'autres choses, les amis, qui vous ont marqué? Peut-être une question, une précision? Oui? Corriger, ouais. Eh bien, je. Oui. Alors la question au micro, c'était qu'est-ce qui se passe quand Dieu vient nous confronter finalement sur un présupposé qui n'est pas juste et que nous ne saisissons pas le préjugé, c'est ça? Nous ne comprenons pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais il devrait y avoir d'autres. Il devrait y avoir d'autres rencontres. Je pense que le chemin de la révélation, c'est un chemin. Nous sommes un peu à l'image des patriarches, mais cette fois-ci vis-à-vis du Christ lui-même. Parce qu'effectivement, nous pouvons avoir fait du Christ notre propre représentation aussi, quelque part. Et que donc il va falloir que le Christ, par le biais de la révélation, vienne nous montrer qui il est. C'est-à-dire que ce que je voudrais dire, les amis, c'est que la Bible ne peut pas être un test de Rorschach. Un test de Rorschach. Qu'est-ce que c'est qu'un test de Rorschach ? Vous savez, c'est cette tache d'encre que l'on met sur une page, on plie la page et on ouvre comme ça, puis on dit aux gens, qu'est-ce que vous voyez ? Et en fait, qu'est-ce que vous projetez sur cette tache ? Vous comprenez ? Et le problème, c'est que chaque fois que nous avons cette, nous prenons la Bible comme un test de Rorschach, nous plaquons ce que nous voyons, ce que nous savons déjà, en fait. Et alors, le pire, nous, évangéliques, c'est quand on souligne la Bible. Donc du coup, chaque fois que... Ah oui, mais non, j'ai aucun problème avec le fait que vous surlignez votre Bible. Mais vous voyez, le problème de surligner votre Bible, c'est que quand vous lisez votre Bible, vous allez vérifier ce que vous savez déjà. Or, encore une fois, nous lisons la Bible. Le problème, c'est que ce n'est pas nous qui devons lire la Bible, c'est la Bible qui doit nous lire, comprenez ? Ce n'est pas nous qui devons faire nos propres projections sur ce qui est écrit et vérifier ce que nous savons déjà. Mais nous devons laisser la Bible nous déstabiliser. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces passages déstabilisants. N'appelez personne père sur la terre. Waouh ! Ça, c'est des passages déstabilisants qui nous déstabilisent à salut. Qui ne nous déstabilisent pas pour nous déstabiliser, mais qui nous déstabilisent à salut. Afin de secouer ces auto-images, ces modèles humains, ces images toxiques, afin de nous reconnecter avec la seule source, hein, la vraie source, l'authentique. Hein. Je crois que la meilleure chose qu'un père peut dire à cet enfant, « Papa, tu es super, tu es merveilleux. » Et je crois qu'un père devrait dire à ses enfants, on dit « Attends de voir l'original. » Parce que si moi je suis super, à tes yeux, attends de voir l'original. Et là, tu me pardonneras quand tu auras vu l'original. Quelqu'un d'autre ? Oui ? Oui. Oui. Oui, de se faire nos propres représentations. Le danger de nos propres représentations, Luc en parle toujours dans ses séminaires, il commence toujours par là, et je crois que c'est tellement fondateur. C'est tellement fondateur, cette vérité-là, que ne te fais pas de propres représentations. On pense toujours que l'idole est problématique. Alors, on pense toujours idole égale statue. Hein, forcément. Sauf que si vous écoutez Luc, encore une fois, il vous dira que l'idole, avant d'être une statue, c'est d'abord une fausse idée. L'idole statuette n'est pas problématique. Elle est problématique dans le fait qu'elle est en fait l'expression d'une fausse idée sur Dieu. Et du coup, elle est une représentation humaine sur Dieu. Donc on peut avoir des idoles sous forme de statuettes, mais on peut avoir des idoles sous forme de fausses idées, tout simplement. Et qu'à l'origine, une idole n'est qu'une fausse idée. Est-ce qu'Abraham avait une fausse idée sur Dieu ? Oui, c'est évident. Est-ce que tous les patriarches n'ont pas eu des fausses idées sur Dieu ? Oui. Qu'est-ce qu'ont eu la vertu de ces christophanies, théophanies avait pour but de confronter ces fausses idées afin de libérer nos vies de ces fausses idées sur Dieu, hein, sur le Père. Quelqu'un d'autre ? Voilà. En tout cas, je suis béni d'être au milieu de vous, hein, de voir votre soif, votre faim. On va continuer à partir de ce tableau-là. Donc ma conviction, mes amis, c'est que... alors la bonne nouvelle, je vais vous le dire à tous, c'est que votre chair, votre nature humaine déchue, la femme livrée à elle-même, l'homme livré à elle-même, bonne nouvelle, a été crucifié en Jésus-Christ. Et votre enthousiasme me bénit ce matin, franchement. Je vais recommencer. La bonne nouvelle, c'est que... Non, attends. Tu le fais au bon moment, Alain, s'il te plaît. La bonne nouvelle, c'est que votre nature humaine déchue, votre femme livrée à elle-même, votre homme livré à lui-même, a été crucifié en Jésus-Christ. Et là... Alléluia. Voilà, c'est-à-dire que la réalité, elle est là, en fait. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ce panneau qu'il y a au fond de la tombe à Jérusalem, là, à Golgotha, enfin, dans ce qui pourrait avoir été la tombe de Jésus. Pourquoi ? Et vous arrivez comme ça, vous descendez, oh, on va voir la tombe de Jésus, vous passez, vous descendez, là, dans, vous rappelez, Luc et Manu, hein, cet endroit, et au fond, il y a marqué, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui vit, quoi. Et moi, je pourrais dire que par rapport à la chair, le problème, c'est que nous cherchons parmi la vie celui qui est mort. C'est-à-dire qu'en fait, la chair, c'est exactement le contraire. C'est nous cherchons dans la vie celui qui est mort. C'est-à-dire que nous pouvons, à certains moments, convoquer dans nos vies, par des choix personnels que nous pouvons faire tous les jours d'ailleurs. Chaque jour, nous nous réveillons avec la possibilité de soit d'aller chercher la vie, soit d'aller chercher la mort finalement. Et en fonction de nos choix personnels, nous activons soit la vie, soit nous activons la mort. Ou si vous aimez bien la science-fiction, vous entrez soit dans la partie sombre de votre être, n'est-ce pas ? Soit vous entrez dans la partie lumineuse de votre être, n'est-ce pas ? Et Star Wars, n'est-ce pas ? Ok.
Je suis ton père.
Non, enfin, non. Et donc, le danger de vivre selon la chair, finalement, c'est de redonner vie à quelque chose qui est mort. Vous comprenez ? C'est exactement l'inverse que de descendre dans la mort du Christ et de découvrir que ce panneau qui dit « Pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant ?» Et le danger de marcher selon la chair, c'est de faire le contraire, c'est chercher la vie dans ce qui est mort, en fait. Et chercher la vie dans ce qui est mort, ça donne une autre chose. C'est-à-dire que lorsque nous convoquons la chair, finalement, par choix personnel, nous décrucifions finalement cette nature humaine déchue et nous en revêtons momentanément. Mais ça aura forcément des conséquences dans notre vie. Parce que on voit bien ce que ça peut vouloir amener comme conséquence de vivre selon la chair du côté gauche, mais ça peut avoir des grandes conséquences de vivre selon la chair aussi du côté droit. Hein. Encore une fois, la chair, elle a ses deux visages, le visage de l'irrespectabilité sociale, et puis le problème, c'est que la chair peut aussi avoir un visage de respectabilité sociale, d'ailleurs, et religieuse, qui s'appelle les scribes et les pharisiens. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les scribes et les pharisiens étaient beaucoup aimés du temps de Jésus-Christ. C'était des gens qui étaient très populaires, très très populaires. Ne pensez pas qu'ils étaient haïs du peuple, certainement pas. Au contraire, ils étaient populaires. Ceux qui étaient un petit peu méprisés du peuple, parce qu'ils se sentaient méprisés par eux, c'était plutôt la caste des Sadducéens, vous voyez, qui traitaient directement avec les Romains. Ceux-là n'étaient pas très aimés et ils tournaient autour de la réalité du temple, etc. Alors que ces gens-là, au contraire, c'était la classe moyenne, hein, les scribes et les pharisiens. Ils servaient ils montraient un exemple de vie fondamentaliste. Quoi, par rapport à la foi, etc. Et du coup, ça impressionnait beaucoup le peuple d'Israël. Mais malheureusement, ces fondamentalismes-là, leur fondamentalisme les aveuglait concernant la personne qu'ils avaient devant eux. Ça veut dire que quelque part en eux-mêmes, ils n'avaient pas les bons présupposés pour voir qui ils avaient en face d'eux. Parce que, croyez-moi les amis, qui d'entre vous n'aurait pas aimé voir Jésus ? Ici, est-ce qu'il y en a qui n'auraient pas aimé voir Jésus ? Il n'y a pas beaucoup, hein. Vous n'auriez pas aimé voir Jésus, vous, en vrai ? Ben si, quand même. Merci de votre enthousiasme. Ok, vous m'avez fait peur tout d'un coup, là. Mais tous ces gens ont vu Jésus. Vous voyez, ils ont vu Jésus. Mais, vous voyez, peut-être que j'ai mal formulé. Alors, c'est peut-être ça le problème. Mon problème était moi, en fait. D'ailleurs, je suis toujours mon propre problème, d'ailleurs. Ne prenez pas les problèmes des autres, hein. Vous êtes déjà assez suffisamment problème sur vous-même. Donc les scribes et les pharisiens, voyez-vous, avaient Jésus en face d'eux, mais n'ont pas reconnu. Oui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que notre nature humaine déchue, nous pouvons se décliner de deux manières, finalement va nous voler la présence du Christ. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, et j'ai voulu terminer par ça hier soir, c'est que je crois à votre sincérité fondamentale quand vous me dites « j'aime l'amour ». Je vous crois, mais alors à 100%, 150%. Quand tu dis « j'aime l'amour », je te crois. Ce que je voudrais juste remettre en question, c'est ceci. C'est que nous prétendons aimer l'amour. Et je crois que nous, on va dire plus comme ça, parce que prétendre, c'est un petit peu négatif. Nous aspirons, on va dire. Nous aspirons sincèrement à l'amour. Et donc, nous aimons l'amour, en fait. C'est notre aspiration profonde. Mais dans le réel, cet amour, nous allons en fait le rejeter. Pourquoi ? Et parce que je voudrais vous montrer une bande dessinée. Vous voyez, comme quoi ça va être un peu varié ce matin. J'espère qu'elle arrive juste après. Non, elle n'arrive pas là. Je vais retrouver la bande dessinée. La voici. Ah, super, c'est assez grand. Je vous laisse regarder tranquillement cette bande dessinée et on va voir comment nous prétendons aimer l'amour, mais pourquoi nous en avons peur en fait ? Je vous laisse regarder. Alors les amis, ça, on commente ensemble l'image, on essaye de, hein, d'accord, peut-être. Donc on voit un couple, hein, et qui vivent un amour, et tout d'un coup il y en a un qui saisit un couteau, hein, de sa propre nature, et va aller trahir l'amour de l'autre d'une violence inouïe en fait, et va piétiner cet amour, et finalement la jeune femme va pleurer devant, non pas le départ du gars finalement, mais devant l'amour qui a été massacré, parce que effectivement dans toute blessure émotionnelle, il n'y a pas seulement le départ de l'être qu'on a aimé, il y a aussi le piétinement même de l'amour, il y a le piétinement même du concept d'amour qui a été piétiné quelque part. Donc ça c'est la première ligne. Deuxième ligne, on a cette personne qui regarde cet amour et qui parce que cet amour lui fait vraiment pitié et que cet amour est mort finalement, va enfermer cet amour à l'abri, va le mettre dans un coffre en sécurité et va fermer ce coffre avec une clé d'ailleurs, parce que quand quelque chose est blessé, quand quelque chose est maladif, quand quelque chose est morbide, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de le mettre dans un endroit sûr, dans un coffre, dans un coffre-fort. Donc l'amour va être dans un coffre-fort et cette personne va prendre ce coffre-fort et va traverser des compagnies de gens qui vivent l'amour. Mais l'amour qu'ils vivent va révéler en fait cet amour en souffrance qui est dans le coffre-fort et qu'il faut absolument protéger. Parce qu'il semblerait même que le coffre-fort lui-même ne soit pas assez solide. Et donc regardez ce mouvement qui est là de se recroqueviller sur le coffre-fort pour protéger l'amour blessé qu'elle porte. Est-ce que cette femme aime l'amour? Question, oui. Mais est-ce que l'amour ne lui fait pas peur? Déjà à la fin de la première ligne, l'amour déjà commence à l'effrayer. Comprenez. On continue la ligne suivante, et là elle rencontre quelqu'un qui, regardez, qui a un amour lui-même qui a été réparé. Hein, et là, elle se dresse entre elle et le coffre de sa vie pour affronter celui qui vient mettre en danger quelque part. Parce que si on est en danger vis-à-vis de ceux qui vivent l'amour, imaginez quand quelqu'un vient en personne au nom de cet amour-là, regardez ce qui se passe. C'est pas une réception qui est donnée, c'est un rejet de l'amour qui est donné. Donc, question que je vous pose, est-ce que vous aimez l'amour? Oui. Continuons donc. Ligne numéro 4, nous voyons... l'homme qui parle d'amour à cette personne qui, vous voyez, qui est entre et qui voit bien qu'elle a un choix à faire vis-à-vis de l'amour et finalement on voit bien que là elle a un choix et regardez la tête qui dit non. Est-ce que cette personne aime l'amour? Oui, mais en réalité non. D'où la question qui n'est pas si évidente que ça. Est-ce que nous aimons l'amour? Nous prétendons tous que oui. Mais en réalité, est-ce que nous l'aimons vraiment au point que nous sommes prêts à sortir l'amour de son coffre? Et regardez, elle, à nouveau, alors qu'à la fin de la ligne 2, elle était toute recroquevillée sur son coffre-fort, là, elle est toute à nouveau en train de couver le coffre-fort et à la grande surprise de l'homme qui comprend qu'il n'y aura pas de solution. Pensez à cet homme comme étant un fiancé possible, potentiel. Mais pensez aussi à cet homme comme étant le Christ lui-même. Et cette personne, tout d'un coup, va se retrouver seule vis-à-vis de cet amour dans un coffre. Et finalement, va lancer la clé. Hein, ce petit ding, là, c'est la clé. Elle a la clé, elle a la solution, elle a la clé. Et finalement, elle donne la clé à celui qui est venu avec un amour réparé. Et celui qui a un amour réparé va ouvrir le coffre, va sortir l'amour qui... Vous voyez, il y a des fils dessus, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas si ça sent mauvais. Hein. En tout cas, il est déchiré cet amour, aussi une odeur de renfermé. Hein. Finalement, il va commencer à réparer cet amour comme lui-même a été réparé. Et puis, il va commencer à remettre la vie dans cet amour réparé. Elle va redonner ce faible ballon. Et tous les deux vont commencer à se promener avec ce faible ballon. Il va y avoir un vent qui va venir. Regardez, ce vent va à nouveau tester la fragilité de l'amour. À nouveau, elle va être en perdition. jusqu'à ce qu'elle prenne la main de celui qui a réparé l'amour, et du coup, une image un peu gnostique qui monte au ciel, soit de l'amour. On s'excuse. Hein. C'est clair, le message, il est là, il est très clair. Pour moi, il est d'une puissance incroyable. Parce que vous pouvez le prendre d'un point de vue romantique, mais vous pouvez le prendre aussi d'un point de vue spirituel. Et sachez que « Love is vulnerable », c'est la citation d'un théologien qui s'appelle C.S. Lewis. Et regardez ce que dit C.S. Lewis, je vous le laisse lire, parce que ça, c'est un passage « Wow, wow, wow ». 3 étoiles, je vous laisse lire. Aimer, c'est être vulnérable. Aimer n'importe quoi et votre cœur sera certainement fendu, peut-être même brisé. Si vous voulez être certain de le garder intact, vous ne devez donner votre cœur à personne, pas même à un animal. Enveloppez-le soigneusement avec des hobbies et des petits luxes, évitez tout enchevêtrement. Enfermez-le bien à l'abri dans le cercueil de votre égoïsme. Mais dans ce cercueil, votre cœur changera. En sécurité, dans le noir, immobile, privé d'air, votre cœur deviendra impénétrable, irréparable. La seule place en dehors des cieux où vous pouvez être parfaitement à l'abri de tous les dangers et risques d'amour est l'enfer. On se rapprochera de Dieu, non pas en essayant d'éviter les souffrances inhérentes et propres à l'amour, mais en les acceptant et en les donnant à lui, jetant toute armure défensive. Si nos cœurs ont besoin d'être brisés, et s'ils choisissent cela comme la manière par laquelle ils doivent être brisés, alors... que sa volonté soit faite. C.S. Lewis n'a pas seulement été l'auteur de Narnia, les contes de Narnia, c'est sans doute un théologien extraordinaire du XXe siècle, hein, je vous invite à lire. C'est donc dans ce livre, Les Quatre Amours. Je pense que vous avez compris donc la dynamique qui est en jeu ici. C'est-à-dire que nous aimons l'amour, nous aimons l'amour du Père. Nous voudrions rencontrer le Père comme étant la source même de l'amour. C'est notre désir, c'est notre projet, c'est notre ADN de chercher cet amour. Seulement voilà, dans notre humanité, ce que nous avons compris de l'amour, c'est que l'amour aussi nécessitait, requérait de notre part la vulnérabilité. Or, vis-à-vis de l'amour, nous avons déjà quelques expériences. Ces expériences nous ont amené peut-être déjà à nous protéger de l'amour. Parce que aimer veut dire être, ça peut aussi se conjuguer pour certains d'entre nous avec souffrance, avec douleur, avec trahison. J'ai aimé de tout mon cœur et j'ai été déçu. J'ai aimé de tout mon cœur quand j'étais enfant, j'étais déçu. J'ai été même trahi dans mon enfance. Ou plus tard, j'ai aimé à l'adolescence et j'ai été déçu. J'ai aimé à l'âge adulte et j'ai été déçu. J'ai vécu tel et tel échec. Et du coup, cet amour, en fait, comme il est dit ici, je suis plus prêt à le donner comme ça. Et du coup, je vais le protéger, cet amour. Je vais le mettre dans le coffre, exactement comme nous venons. Et ce coffre-là, voyez-vous, lorsque nous marchons à la rencontre du Père, ce coffre, à un moment donné, il va y avoir un bruit de bois. Si nous voulons rencontrer le Père, et à un moment donné, nous allons être confrontés à ce coffre-là, forcément. Parce que le Père va nous dire une chose, il va nous demander une chose, il va nous demander notre vulnérabilité. Exactement comme ce jeune homme là, avec cet amour fragile, mais qui est réparé, qui demande à ce que l'amour soit sorti du coffre. Parce que cet amour que nous avons mis en protection contre les atteintes, contre l'amour, cet amour que nous avons mis en protection, cette protection va devenir, écoutez-moi bien, le pire obstacle pour vous, pour rencontrer l'amour du Père. Ça va devenir votre pire obstacle. C'est-à-dire que la manière dont vous êtes protégé des amours faillibles de ce monde, et je peux comprendre que vous l'ayez fait, et j'espère que vous n'entendez pas d'accusation de ma part. Mon cœur est dénué d'accusation par là. Je peux que vous comprendre si vous avez fait ça, si vous avez été blessé, si vous avez protégé votre amour. Vous êtes forcément bâti un système de défense efficace. Et plus l'efficace, plus le coffre est épais, vous comprenez? Et ça, je ne pourrais pas vous en vouloir, je ne pourrais pas même vous en faire le reproche, mais je voudrais juste que vous compreniez que ce système de défense efficace que vous avez bâti a été efficace devant les souffrances de l'existence, mais devient le même efficacité quand il s'agit de rencontrer le Père. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous allons commencer, vis-à-vis de l'amour, à mettre des stratégies d'évitement. C'est-à-dire que quand l'amour va venir, nous allons commencer à dire « Oh là là, attention !» et on va commencer à contourner l'amour. Parce que finalement, l'amour pur du Père venant à nous demande une réponse pure et absolue. L'amour absolu demande une réponse absolue. L'amour immense du Père demande de notre part une vulnérabilité sans concession. Parce que, encore une fois, les amis, si vous avez été blessé dans votre amour et que vous êtes en présence d'hommes et de femmes, ça pourrait paraître juste de vous protéger. Et je pense que c'est même souhaitable. Mais, mes amis, de garder ces défenses en présence du Père, la source même de l'amour, Dieu est amour, le Père est amour avec un grand A, à ce moment-là, c'est plus souhaitable. Ça devient même une offense pour l'amour elle-même. Si nous, alors que nous désirons au fond l'amour, nous rejetons l'amour inconsciemment en nous-mêmes par des stratégies d'évitement, eh bien nous sommes en train d'offenser la source même de l'amour. Et c'est ce que j'aimerais, je pense que cette parabole a en grande partie pour but de nous montrer que le Père est acceptation, que le Père est toute acceptation, le Père est bras ouverts, le Père est amour, mais que si nous sentons des distances, à aucun moment ces distances ne viennent de lui, elles viennent de nous. Parce que ces distances, ce sont nos propres dispositifs d'autopréservation que nous mettons dans notre relation avec le Père. Il suffit d'en prendre conscience, parce que le premier pas vers la libération, c'est de prendre conscience de nos dynamiques intérieures. Et j'aimerais... Ah oui, on n'aura pas le temps de voir cette question-là, malheureusement. J'aimerais... Oui, c'était juste, je voulais vous montrer que le Père a un cœur de mère, avant d'aller plus loin. Allez, dans ce tableau-là, avant d'aller plus loin, je voudrais vous montrer que le Père a un cœur de mère. La raison pour laquelle, dans cette parabole, dans cette troisième partie de la parabole, de la grande parabole de Luc 15, vous avez... un homme avait deux fils, non pas un homme et une femme avaient deux fils, c'est parce que je crois que Jésus tout simplement a voulu montrer que c'est pas pour faire pour aller dans pour faire honneur au machisme ambiant, certainement pas, ou faire un compromis du moins avec le machisme ambiant, mais c'est pour montrer qu'il n'y a pas de femme dans cette parabole, non pas parce que Jésus méprise les femmes, certainement pas, mais parce que cette femme n'est pas à côté du Père, elle est dans le Père. Et dans ce tableau, le Rembrandt a donné un détail qui montre clairement que le Père a un cœur de mère. Est-ce que vous le voyez? Si vous le savez déjà, s'il vous plaît, restez silencieux, laissez ceux qui ne savent pas trouver la solution. Mais est-ce que vous savez le détail par lequel Rembrandt montre ce Père au cœur de mère? Est-ce que vous voyez ce détail pictural? Alors, tout de suite, je vous mets en garde. Il y a trois personnages derrière, d'ailleurs, qui font penser à la Trinité, d'ailleurs. Hein, vous avez une femme, effectivement, au fond. Peut-être c'est la servante, la femme libre de la deuxième parabole, de la deuxième partie de la parabole. Et puis là, vous avez les deux personnages aussi qui font penser aux trois, à la parabole en triptyque, donc de Luc 15. Donc, ne vous préoccupez pas de ces trois figures, au fond, ou aussi, tout simplement, peuvent représenter aussi les servantes, les serviteurs du Père. Hein. Non, préoccupez-vous simplement de l'image du Père elle-même, et regardez bien, picturalement, un jour, à Jeunesse en Mission, je demande où est la mère dans cette parabole. Et il y a une étudiante qui dit, elle est peut-être à la cuisine. J'ai dit, tiens, c'est une super blague, quoi, tu vois. Et en fait, elle blaguait pas du tout, quoi. J'ai dit, ah, oups. Vous voyez, comme le sexisme aussi peut aussi venir dans l'étude d'une parabole. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la maman n'est pas à la cuisine et papa ne fait pas du chocolat non plus. Ouais, je veux dire, d'accord. Ok. Donc, où est la mère? Où est-ce que vous le voyez? Alors, promets-moi que tu ne le savais pas avant. Qui est-ce qui a répondu? Oui, tu ne le savais pas avant? Ah, bah écoute, formidable. Félicitations. On applaudit ce frère. Alléluia. Félicitations. Regardez bien les mains, effectivement, du père. La main gauche du père, par un jeu, par ce qu'on appelle justement un éclairage à la Rembrandt. Si un jour vous allez chez un photographe, parlez-lui d'un portrait. Faites-moi un portrait à la Rembrandt. C'est-à-dire qu'il va mettre l'éclairage sur la droite ou sur la gauche, un éclairage latéral comme ça. Et c'est ça l'éclairage à la Rembrandt, c'est un éclairage latéral, vous, qui balaye les ombres de gauche jusqu'à droite ici sur ce tableau, et du coup ça projette des ombres. Ce qui fait que la main qui est le plus dirigée vers la lumière a moins d'ombre que celle qui est moins dirigée vers la lumière, du coup elle étend ses ombres. Mais si on fait un gros plan, il me semble que je l'ai ce gros plan là, oui voilà, vous voyez clairement que la main gauche du père est beaucoup plus empâtée, beaucoup plus large, et la main droite beaucoup plus fine. Vous avez donc l'image, vous avez une main de père et une main de mère. Hein? Et donc une main de femme en tout cas. Et donc c'est le moyen par lequel Rembrandt va nous montrer que ce père a un cœur de mère. Alors est-ce que c'est scripturaire ça? Eh bien complètement scripturaire. Si on avait le temps, on pourrait prendre une petite vingtaine de minutes pour vous montrer depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament toutes les images où Dieu assume l'image d'une mère. Et pourquoi c'est tellement important que l'on refuse pas cette image de mère au père? Parce que dans toutes les cultures, je vous l'ai dit, l'image du père, excusez-moi les gars, mais elle n'est pas forcément très positive. Papa où t'es? Comprenez? Papa où t'es? Et ça, papa où t'es? Pourquoi, encore une fois, on est à 500 millions de vues sur YouTube, dans la francophonie? C'est parce que justement, c'est le problème de la francophonie. Les pères ne sont pas forcément tous exemplaires. Par contre, vous prenez toutes les cultures du monde, l'image de la mère, alors est toujours... véhicule toujours quelque chose de positif. Et vous savez quelle est l'image positive de l'image de la mère que le Seigneur assume complètement et qu'il reprend à son propre compte? Quelle est l'image positive de la mère qui est transculturelle? C'est quoi? Pardon? Non. Enfin, oui, mais plus que ça. La consolation, je suis d'accord. Donner la vie, oui. Protéger, oui, mais il y a encore plus que ça, excusez-moi. La tendresse, oui, mais il y a plus que ça. Ça a même un fondement chimique. Je vais le dire, l'attachement. Ah oui. Tout ce que vous avez dit est juste. Hein, on valide tout ce qui a été dit à l'instant. Mais sur fond d'une réalité, c'est l'attachement. Vous savez, et ce verset qui dit « Une femme abandonnerait-elle ?» Sans rejeton. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. C'est abandonner-t-elle? C'est-à-dire que la réponse biologique, c'est non. Non, non et non. Un homme abandonnerait-il son enfant? D'ailleurs, à un moment donné, l'Ancien Testament va convoquer une image du monde animal. L'image d'une ours privée de ses petits. Ou dont on voudrait priver ses petits plutôt. L'image d'une ours. Eh bien, j'ai regardé un reportage récemment, ça m'a fasciné. Hein. Le papa ours, excusez-moi, hein, l'image du papa ours dans les contes, hein, va en prendre un petit peu pour son grade. Hein. Le papa ours peut bouffer ses enfants. La maman ours, qui fait la moitié de la taille de l'ours mâle, hein, facilement, hein, voire le tiers. Si papa ours essaye de toucher un de ses enfants afin de faire son casse-croûte, son 4 heures, maman ours va se dresser contre papa ours. Elle ne va pas regarder la différence de nature. Elle ne va pas regarder la différence de taille. Elle ne va pas regarder au sexisme ou quoi que ce soit. À ce moment-là, maman ours va se dresser. Et cette image de la jalousie, cette image de l'attachement biologique de la mère à ses enfants, Le Seigneur va la recapter dans l'Ancienne Alliance. Je vous promets, c'est dans l'Ancienne Alliance, ce n'est pas une innovation du Nouveau Testament, ça. Va recapter cet attachement pour montrer que l'Éternel est celui qui s'attache à son peuple. Et il va recapter cette image de la mère pour cette raison-là. Ensuite, bien sûr, tout ce que vous avez dit, il va le recapter aussi. Et il va en parler comme étant celui aussi qui est consolateur, doux, qui apprend à marcher, qui aime, qui est plein de consolation. Le saint des consolations a tété. Et d'ailleurs, ça aurait été intéressant de voir ça, mais on n'a pas vraiment le temps. Mais juste, je voudrais juste vous lancer sur cette recherche-là. El Shaddai, qu'est-ce que ça veut dire El Shaddai? Dans un passage qu'on trouve dans Deutéronome d'ailleurs, une des premières fois où El Shaddai est cité, et d'ailleurs qui est traduit toujours par Dieu Tout-Puissant, des théologiens, des philologues, en fait, aujourd'hui remettent en cause cette traduction. El Shaddai ne voudrait pas dire ça, parce que dans le même passage, il est dit, je te nourrirai des sources d'en haut, et je te nourrirai du saint. Or, en hébreu, le saint, c'est Shad. Et en pluriel, ça donne Shaddaim. Les saints, c'est Shaddaim. Or, dans le même passage où tu as Shaddaim, tu as le mot Sieu Shamaim et tu as El Shaddai. Donc imaginez, dites avec moi, Shaddai, Shamaim, Shaddaim. Allez-y. Ça s'appelle comment en poésie ça? Une allitération, hein. C'est bien ça Luc? Quand il y a des consonances, comme ça, rappelez Rimbaud, les consonances, tout ça. Le fait qu'on entend le même son dans un même verset, c'est la beauté de l'hébreu, hein. Dans ce passage où El Shaddai apparaît, il apparaît El Shaddai dans le contexte de Shamaim, des bénédictions des cieux, et puis du saint Shaddaim. Or, donc, pour un pasteur, d'ailleurs, que vous trouverez, je pourrais vous envoyer le lien. Écrivez-moi si vous voulez creuser ça. Je vous enverrai un lien d'une prédication d'un pasteur à l'Oratoire du Louvre qui traite cette question avec assez de précision. Il dit ceci, il dit que Shaddaim, en fait, pourrait venir de Shaddai, pardon, pourrait venir de Shaddaim. Autrement dit, l'Éternel serait celui qui a une poitrine. Qui est nutritif, qui donne le sein comme une mère, au fond. L'image, donc, d'un Dieu comme mère. Donc, imaginez tous les passages où nous, on nous a traduit par « tout-puissant ». En fait, c'est plutôt une image peut-être maternelle, d'une puissance aussi. Mais la puissance de l'attachement, la puissance de la consolation, la puissance du fait de prendre soin. Alors maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est dire aller voir tous les passages de l'Ancien Testament où El Shaddai est utilisé. Et merveille, ô merveille, quand vous relisez les premiers passages où le mot El Shaddai apparaît, le contexte immédiat, c'est celui justement d'un éternel qui prend soin de ses enfants. Et donc la traduction abstraite, ça serait, parce que vous savez, l'hébreu est très concret. Ne soyez pas choqués par une image qui vous vient comme ça d'un Dieu avec une poitrine. Ne soyez pas choqués parce que l'hébreu est toujours très concret, à la différence de notre langue française qui est abstraite. Par exemple, en hébreu, quand il s'agit de parler de la force, le mot qu'il va utiliser, c'est quoi? Corne. Je ne sais pas ce que c'est que la force, aller dans un pré où il y a des taureaux, passer 10 minutes dans ce pré-là, vous saurez au bout de 10 minutes ce que c'est que la force. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis que l'hébreu est très concret, c'est que par expérience, si vous allez dans un pré où il y a des taureaux, vous saurez ce que c'est que la force. À la fin de la journée, vous aurez une vraie idée, surtout dans le bas du dos. Vous voyez ce que je veux dire? De ce que c'est que la force. Les cornes. Pour cette raison que dans l'Apocalypse, on voit des gens avec des cornes sur la tête. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils sont cocus? Non, ça ne veut pas dire ça, bien sûr. Ça veut dire que justement, le pouvoir leur a été donné, la puissance leur a été donnée, etc. L'image de force, ok, leur a été donnée. Bon, allez, je dois clore avec cette question parce que j'ai plus que 5 minutes avant la pause. Donc, comme promis, nous allons... Ah oui, je voulais vous montrer aussi ça. Dans cette parabole... Il y a trois niveaux. Bien sûr, il y a une révélation de qui est le Père, qui est Yahweh, qui est notre Adonai, notre Seigneur. Le Père va nous être révélé par Jésus, qui, encore une fois, est le seul qui l'a vu réellement. puisqu'il est le Père lui-même, finalement venu en chair et en os, nous parler de lui-même. Cette révélation du qui du Père est indissociable du fait de qui nous sommes. La fonction de ces deux gars dans cette parabole est là pour nous offrir un miroir de nous-mêmes. Ne portez pas un regard condescendant sur ces deux fils-là, parce que ces deux fils, c'est nous. Je me rappelle personnellement d'un groupe de louanges qu'on avait dans notre église et ils avaient fini par s'appeler, ils s'appelaient eux-mêmes le groupe anti-pharisien. C'est-à-dire, imaginez l'orgueil et l'arrogance qu'il y a dans une telle déclaration. C'est-à-dire que, vous comprenez, alors bien sûr, ils avaient laissé à nouveau pousser leurs cheveux, etc. Parce que, vous voyez, il y a une tendance de la chair. C'est-à-dire que pour ne pas ressembler à la religiosité, la chair va essayer d'imiter la non-religiosité. Et nous sommes capables de mimer la non-religiosité, soit par le vêtement, par un style, etc. Même psychologiquement, nous allons décliner des traits de caractère pour montrer qu'on n'est pas religieux. Mais ce n'est pas ça qui va nous protéger de la religiosité. Ce sont des vains espoirs. Nous ne pourrons pas prétendre être pas religieux. Le seul moyen qui va nous garder de la religiosité, c'est de rencontrer le Père en vérité. Et devenir nous-mêmes père et mère spirituels. Je vais vous dire une chose, les amis, le seul moyen par lequel nous allons échapper à cette dualité entre la chair au visage des publicains et des gens de mauvaise vie et la chair des scribes et des pharisiens, le seul moyen d'échapper, c'est bien sûr les laisser bien à la croix, ces deux réalités-là, et puis surtout de devenir comme le fils de la parabole, comme le père de la parabole. Mais pour cela, il faut que nous voyions qui nous sommes. En aucun cas, cette parabole jette un regard suspicieux ou même de jugement, parce que cette parabole commence par une parole extraordinairement amoureuse. Je ne sais pas si vous imaginez, Jésus est au milieu de cette humanité. Vous voyez le tableau de Tissot ? Vous le voyez à nouveau devant vos yeux ? Vous l'avez devant vos yeux, Jésus est au milieu, et à un moment donné, son bras s'étend du côté des scribes et des pharisiens, et il leur dit, un homme avait deux fils. Waouh ! C'est-à-dire que l'Éternel qui parle ici, au travers du Christ, assume le fait qu'il a une famille dysfonctionnelle, complètement dysfonctionnelle. Et d'ailleurs, est-ce que l'Église, mes amis, ne montre pas ce visage dysfonctionnel ? L'Église dans son grand ensemble, avec un grand E. Et même, finalement, est-ce que nos églises locales ne sont pas toutes des familles dysfonctionnelles qui recherchent la présence du Père pour être guéries ? Et qu'au fond, tous nos problèmes viennent finalement du fait que nous n'avons pas encore trouvé le Père. S'il existait au monde, et je ne sais pas s'il existera un jour cette Église, peut-être qu'au moment du retour de Jésus, mais nous sommes en chemin. Plus une Église accueille des prodigues, plus une Église aussi accueille des aînés qui rencontrent finalement le Père, parce que les deux ont besoin de rencontrer le Père, à la même profondeur, plus ces Églises-là rencontreront le Père, plus je suis persuadé que nous dysfonctionnerons de moins en moins. Mais soyons clairs, nos dysfonctionnements viennent en grande partie de notre nature humaine déchue, de nos problèmes de chair, de nos problèmes identitaires, de nos positionnements, de nos tests de Rorschach que nous projetons en lisant la Bible, comprenez ? Ça vient certainement de ça. Et pourtant, le Père, en la personne de Jésus, est au milieu de cette humanité, est en train de dire: un homme avait deux fils. Regardez cet amour inclusif. Parce que le seul moyen de nous guérir de ces deux fils, ce n'est pas de les rejeter dans un premier temps, c'est juste les accueillir. Parce qu'avant de rendre des fils approuvables, ça c'est la stratégie du Père, il les rend acceptables. En France, on fait exactement le contraire. On ne veut accepter que ce que l'on approuve. Alors que le Père, lui, il accepte d'abord, et cette acceptation crée un chemin vers l'approbation. Voilà, on fait une pause de combien de minutes, Luc ? 10 minutes. Alors, quelle heure est-il ? Il est 11h10. À 11h15, je commence, que vous soyez là ou pas, tant pis pour vous. À tout de suite.
Il y a les livres de Pierre, Un père avait deux fils, ceux qui seraient intéressés, à 16 euros. Les toilettes, donc il y en a en bas, au rez-de-chaussée, et il y en a aussi ici sur le palier. Voilà, donc dans 10 minutes.
On a un calque, c'est la révélation de qui est le Père. Et on va, cet après-midi, passer un moment extra, je vous promets. S'il y a une sorte de, c'est le lourdeur post-prandiale, à mon avis, elle prendra fin, justement, sur cette révélation de qui est le Père. Cette révélation de qui est le Père est indissociable du fait de savoir qui nous sommes. Parce que, et c'est Saint Augustin qui... c'est pas Saint Augustin, c'est tous les pères de l'Église l'ont dit. Et ça a été rappelé par Jean Calvin, c'est que la connaissance de Dieu, la connaissance de nous-mêmes, la connaissance du Seigneur est inséparable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous approcher de la source de la lumière, qui est la source de toute lumière, du Père des Lumières, si vous-même, vous serez forcément éclairé. Mais cette connaissance du Père, cette connaissance de nous-mêmes est indissociable. Et je voudrais vraiment le poser comme un fondement ici. Vous ne pouvez pas connaître le Père si vous n'acceptez pas de voir qui vous êtes. Et si vous n'acceptez pas de voir qui vous êtes, vous ne pourrez pas connaître le Père en vérité. Ça prendra une dimension encore plus concrète demain matin, je vous le promets. Mais pour l'instant, j'aimerais que vous le reteniez comme quelque chose... C'est une connaissance mutuelle, vous comprenez ? Et je voudrais que vous fassiez ce geste-là. Voilà. Connaissance de soi, connaissance du Père. Voilà, faites-le plusieurs fois. Voilà. Ça passe, on passe du concret comme ça, voilà. Connaissance de soi, connaissance du Père, c'est un mouvement continuel comme ça, une sorte de va-et-vient continuel. Hein. C'est pour cette raison que la connaissance du Père passera forcément par ce regard. C'est pour cette raison qu'il y a dans cette troisième partie de la parabole, il y a deux fils qui sont là pour nous mettre en miroir dans cette parabole. Et puis, il y a un troisième layer, un troisième calque, si vous voulez, dans cette parabole. Là, je vous le dis tout de suite, on n'aura pas le temps sur un week-end de l'envisager. C'est toute la dimension du royaume de Dieu et c'est au travers de la notion d'héritage. D'ailleurs, si le réseau dans lequel nous nous trouvons et vous vous trouvez avec nous s'appelle le réseau héritage, c'est parce que, justement... nous sommes convaincus que dans cette parabole, il y a toute cette dimension de l'héritage. Et là, je l'ai mis au singulier, mais en fait, on devrait le mettre au pluriel à cause du fait que les fils héritent du Père à un moment donné et traitent leur héritage de deux manières, nous conduit finalement dans toute la thématique du royaume de Dieu. Donc c'est aussi une parabole du royaume de Dieu et ce n'est pas simplement une parabole pour l'école du dimanche, je n'ai pas de mépris pour l'école du dimanche, mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a une version pour adultes aussi dans cette parabole. Voilà. Voilà, c'est ça, il existe une version pour adultes, c'est aussi une bonne nouvelle. Donc, ce matin, pour terminer cette matinée, je voudrais voir, on va déjà voir dans le cadet, quelle est la stratégie d'évitement que le cadet va mettre en place. Et pour cette raison, je vais donc forcément passer sur tout ce passage où le cadet s'éloigne du Père. Il s'éloigne du Père en 10 étapes. C'est un chemin de mort. Est-ce que je l'ai là, cette diapo ? Je vais essayer de voir si je l'ai. Attendez, je m'assieds un tout petit peu. Voilà. Non, je n'ai pas la diapo ici, donc ok. Bah, tant pis, je vais essayer là. Je cherche la... Voilà, ça sera celle-ci. OK. Et avant de parler du cadet, je vois une image là qui m'interpelle. Je voudrais juste vous la montrer quelques instants. Là, juste pour vous parler, pour vous donner un peu, parler encore plus de la structure de cette parabole. Ce qui est incroyable, c'est que cette parabole, en fait, elle est construite en fait sur Golgotha quelque part. On sait que la parabole a été donnée bien avant Golgotha, mais avec le Seigneur, c'est pas un problème ça, du tout, puisqu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et pour lui, il vit dans une forme de temps qui est absolument éternelle. Il est en même temps l'alpha et le commencement. Et il est l'alpha et l'oméga. Hein. Dans cette parabole, nous avons effectivement Christ au centre. Nous avons le Père au centre, qui n'est pas celui qui réclame le sacrifice, c'est celui qui se sacrifie lui-même. On y reviendra. Et nous avons donc deux brigands. Je vous rappelle qu'au temps de Jésus, les brigands qui étaient crucifiés n'étaient pas des gens qui avaient piqué sur le marché. Hein. C'était considéré comme des terroristes. C'était des gens qui s'étaient clairement opposés à la force de Rome. Et donc, c'était des terroristes qui avaient même pris le couteau, ce qu'on appelle les sicaires. Hein. Ils prenaient des couteaux pour tuer le maximum de Romains, parce que se référant aux anciennes batailles armées d'Israël contre les ennemis nationaux d'Israël, par nationalisme pur, justement, ces gens s'opposaient à la puissance de Rome, mais frontalement. Hein. Et je vous rappelle que Jésus va dire « Celui qui prend l'épée devra périr par l'épée ». Et là, donc, nous sommes en présence de certainement deux sicaires, finalement, de terroristes, de personnes qui, par zèle pour le Seigneur, hein, par zèle pour le Seigneur, se sont opposées à la puissance de Rome, pensant être finalement des figures honorées des grands héros d'Israël, à l'image de David, ne serait-ce que l'image de David qui a pris les armes contre les ennemis d'Israël. Donc ces gens-là voulaient être la descendance de David, finalement, prendre les armes aussi, et faire comme le roi David, et mettre bouté hors des confins de Jérusalem les puissances humiliantes que représentait Rome à cette époque-là. Ce qui est intéressant dans cette image, je vous rappelle, c'est qu'au début, les deux brigands commencent à insulter Jésus. Et puis à un moment donné, il y a un brigand qui se reprend, hein, des terroristes qui se reprend, des sicaires qui se reprend, qui dit « Mais écoute, arrête, parce que celui-là n'a rien fait et nous sommes coupables. » Et il se tourne vers Jésus et dit « Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus va répondre, cette parole que vous connaissez tous, c'est une des sept paroles de la croix. « Je te le dis en vérité, maintenant, je te le dis maintenant, hein, tu seras avec moi dans le royaume. » Donc autrement dit, je veux dire, l'épisode s'arrête là-dessus, mais on ne sait pas la suite. On ne sait pas si l'aîné, finalement, va aussi se tourner vers le Seigneur en faisant la même demande. L'image s'arrête comme ça, presque inachevée, sur le fait que le cadet, le plus jeune, finalement, le brigand de gauche, dirons-nous, va demander au Seigneur, va faire une demande qui va ouvrir tout le chemin du royaume de Dieu dans sa propre vie. Il va être sauvé, ce qu'on appelle in extremis. Mais pour ce qui est l'autre, on ne sait pas quelle va être sa réponse. Alors la Bible ne le dit pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réponse possible de l'aîné. En tout cas, on ne sait pas s'il a persévéré dans ses blasphèmes, en rejetant la grâce, ou est-ce que finalement il s'est rendu lui-même à la grâce, on ne le sait pas. Et du coup, la parabole est faite exactement de la même manière. C'est-à-dire que si vous regardez bien la parabole, eh bien du coup, la parabole est inachevée. Quand l'aîné va rentrer à la maison du père et va être invité par le père à rentrer dans la fête, on sait que l'aîné va refuser d'entrer dans la fête. Et finalement, le père va, aux deux derniers versets, 31 et 32, va inviter l'aîné à rentrer dans cette fête et va lui rappeler que tout ce qui est à lui, et tout ce qu'il a est à lui aussi, que ce fils est toujours avec lui, mais qu'il fallait se réjouir parce que ton frère, voilà, qui était mort, voici, il était perdu et en fait, il est venu à la vie. Voilà, la parabole se termine par les paroles du Père, mais on ne sait pas quelles vont être la réponse de l'aîné aux paroles du Père. Autrement dit, on voit bien que cette dernière partie de la parabole, et finalement, toute la parabole globale de Luc 15, n'est pas un cercle fermé sur la Trinité elle-même, mais c'est un cercle ouvert. Parce que la Trinité n'est pas un cercle fermé sur elle-même, c'est un cercle qui est ouvert, parce que nous avions accès, la Trinité a accès en nous, et nous avons accès dans la Trinité. Et finalement, cet inachèvement a une raison importante, c'est que si cette parabole n'est pas terminée, eh bien, elle nous fait penser à cette image de Golgotha. Finalement, on est sûr que l'un des deux brigands est sauvé, mais on ne sait pas ce qu'il en est de l'aîné. On ne sait pas ce qu'il en est du deuxième. Eh bien, dans la parabole, c'est pareil. Nous savons que l'un des brigands est l'un des deux brigands, des deux fils, en fait, est réellement sauvé, puisque le père l'atteste clairement au dernier verset de la parabole. Mais qu'en est-il du statut spirituel de l'aîné ? Qu'en est-il? Eh bien, on ne sait pas. La parabole est donc inachevée, et il y a des points de suspension qui nous laissent penser que la raison pour laquelle il y a cet inachèvement de la parabole, c'est parce que cette parabole est ouverte sur chacune de nos vies et que c'est avec notre vie que nous devons donner notre réponse. Notre vie elle-même va servir pas à inventer, pas à créer, mais à incarner la fin de la parabole. Nous sommes appelés à rentrer dans une forme littéraire, mais cette forme littéraire finalement nous appelle à une vie, à une existence qui va conclure. Parce que le paradoxe, mes amis, regardez comment la tradition appelait la parabole du fils perdu. Le fils prodigue ou le fils perdu, comme on trouve dans certaines éditions de la Bible, le fils perdu. Qui est perdu dans cette parabole ? Si on lit bien le dernier verset, ça ne peut pas être le cadet, puisque le cadet est retrouvé. Mais concernant l'aîné alors, la question lui est posée, soit l'aîné, tu te considères comme retrouvé, et à ce moment-là, tu es comme les brebis dans le désert, soit tu te considères aussi quelque part perdu dans ton système, et là, tu peux être retrouvé, si tu le veux, comprenez. Et au fond, c'est la question qui nous est posée à tous. Dans notre cheminement avec le Seigneur, soit nous nous considérons comme étant trouvés, mais si quelque part nous sommes dans la mentalité de l'aîné, et le but de cette parabole va être de nous montrer si nous sommes dans cette mentalité-là, si nous sommes dans la mentalité de l'aîné, alors nous ne sommes pas trouvés, nous sommes en réalité perdus. Nous sommes dans la maison du Père, mais nous sommes perdus dans la relation avec le Père. Voilà, je voulais juste lancer cette image-là. Maintenant, je voudrais que l'on revienne au cadet et montrer ses stratégies d'évitement par rapport à l'amour. Ah oui, c'est la deuxième, c'est ici. Après avoir fait tout ce chemin-là d'éloignement, par lequel, par l'amertume, il va commettre un meurtre symbolique, il va l'amener au matérialisme, à l'exil, la solitude, la prodigalité, la débauche, la famine, la mésalliance, il va vivre l'antisémitisme. Je voudrais juste préciser que, de toute évidence, le cadet ici est un fils d'Israël. On a souvent dit, vous savez, nous les Occidentaux, on va vite avec nos interprétations. On dit, oui, alors vous comprenez, le cadet représente les nations et puis l'aîné représente Israël. Oui, on aime bien les dualismes comme ça en Occident. Moi, je suis alors pas du tout convaincu de ça, sauf que, bien sûr, je conçois que le cadet est vécu comme les nations. Et d'ailleurs, c'était son but. Il a voulu quitter les confins du pays de l'Alliance pour vivre comme les nations, parce qu'il a vu les nations libres. Vous voyez, c'est comme les publicains, les gens de mauvaise vie, ils ont voulu faire de leur liberté un voile pour leur méchanceté intérieure. Et c'est ce qu'a fait le cadet, Galates 5, 4. Hein, ou Galates 5, 17, un truc comme ça. Ne faites pas de votre liberté un voile pour vivre selon la méchanceté. C'est ce qu'a fait le cadet. Donc, sous cet aspect-là, bien sûr, il a vécu comme les goïms. Mais ce n'est pas un goïm, c'est un fils d'Israël complet. Et je vais vous le prouver de trois manières. Première manière, lorsqu'il va revenir vers le Père, et on va le voir dans quelques instants, il va dire « J'ai péché contre le ciel et contre toi ». Or, cette manière de parler est typique d'un sémitisme. C'est-à-dire que pour éviter de dire Yahweh, qui est le nom imprononçable pour nos amis israélites, il va dire « j'ai péché contre le ciel ». Parce que le ciel, c'est là où habite l'Éternel. Et donc, c'est une manière d'éviter à prononcer et donc de faillir sur un des 10 commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel en vain. Donc, le fait qu'il dise « j'ai péché contre l'Éternel et contre toi », de toute évidence, là, c'est une expression tout à fait sémitique, en fait. C'est une manière de dire « j'ai péché contre l'Éternel et contre toi ». Et le fait qu'il n'ose pas, qu'il ne consent pas à montrer qu'il est, de parler de l'Éternel en termes directs, montre sa judéité. Première preuve. Et d'ailleurs, je voudrais juste préciser à ce point-là que c'est quand même étonnant que ce fils soit allé aussi loin dans les nations, et qu'à un moment donné, c'est sa judéité qu'il rattrape, c'est son éducation, qui prouve qu'il n'y a pas de substitut à l'éducation. Parce que pourquoi son éducation va le rattraper à l'extrémité de lui-même ? Et l'éducation, c'est ce qui rattrape quelqu'un à l'extrémité de lui-même. Pour ça, nous sommes dans... je voudrais bénir Luc et Manuela, pour tout ce travail dans l'éducation que vous avez été en France, parce que vous avez donné un fondement de l'éducation pour l'éducation, et pas seulement l'éducation scolaire, mais l'éducation des enfants en général. Et l'éducation, c'est ce qui reste quand on est à l'extrémité. À quand nous sommes dans l'extrémité de nous-mêmes ? Nous sommes à l'extrémité de nous-mêmes lorsque vivons la famine. Peut-être vous n'avez pas connu de famine. Est-ce qu'il y en a qui ont connu ce que c'était que la famine ? Peut-être des personnes plus âgées parmi nous. Est-ce qu'il y en a qui ont connu la famine ici ? Personne n'a connu la famine. On serait en Orient ou au Proche-Orient ou dans le tiers-monde, les gens lèveraient plus la main. D'ailleurs, c'est ce qui leur permet de ne pas voir le fils prodigue dans la parabole. Vous savez, quand ils parlent du cadet, ils disent le fils qui a eu faim. Vous voyez, ce titre, le fils prodigue, est terriblement un titre occidentalisé. Mais c'est de l'Occident en barre, à 100%. C'est de l'Occident pur, ce titre. Pourquoi ? Parce que nous, Occident, dans la plénitude de nos moyens de production, dans la plénitude de nos finances, nous avons projeté sur le fils prodigue le fait qu'il était prodigue parce qu'il dépense tout son bien. Voilà ce que nous avons reconnu du fils prodigue. C'est le fait qu'il dépense tout son bien. Mais pour voir cela, ça vient du fait que nous-mêmes, nous sommes occidentalisés, nous sommes l'Occident. Si vous allez dans le Proche-Orient ou dans le tiers-monde raconter cette histoire du cadet, ils vont dire « Ah, c'est le fils qui a eu faim !» Parce qu'eux, ils connaissent la faim, vous comprenez ? On parle depuis sa propre expérience, de sa propre perspective, depuis sa propre incarnation culturelle. Et du coup, on va parler du fils qui a eu faim. Juste ça, en passant. Mais pourquoi c'est un sémite ? Parce qu'au moment, imaginez, vous mettez un Alsacien. Allez, prenons par hasard l'exemple d'un Alsacien. Juste, non, c'est tout à fait fortuit. Hein. Vous mettez un Alsacien dans un état de famine. Vous lui donnez de garder des cochons. Moi, je vous le dis, hein. À mon avis, 5 minutes après, vous avez une choucroute garnie, quoi. Il ne manque plus que la choucroute, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Parce que dans le cochon, tout est bon. Voilà. Non, mais c'est culturel. Vous dites ça partout en France, dans le cochon, et tous les Français de répondre, tout est bon, tu sais. Et donc, non, mais imaginez, vous mettez un Alsacien dans cette... Il a faim, le gars. Il voit des cochons qui mangent des caroubes. Connaissez-vous un seul Alsacien qui convoiterait les caroubes, quoi ? Est-ce qu'il existe des choucroutes aux caroubes en Alsace ? C'est pas possible de trouver des choucroutes aux caroubes. Ça n'a pas encore été créé. Par contre, des choucroutes au porc, ça, franchement, hein, vous savez faire, les gars, hein ? Donc, vous voyez, c'est ça qui me dit que... Et pourtant, Dieu sait si la famine est une puissance incroyable. Ça amène quelqu'un à ses extrémités, hein, de lui-même. Hein. Il n'y a rien d'autre qui puisse amener quelqu'un autant à l'extrémité de lui-même que la famine. Et pourtant, regardez ce qu'il trouve à l'extrémité de lui-même. Il trouve un commandement. Il trouve son judaïsme. Il trouve son éducation. Waouh ! C'est là où vous vous dites, il n'y a pas de substitut à l'éducation, ce n'est pas possible. Il n'y aura jamais de substitut à l'éducation. Aussi peut-être, un seul substitut, l'acceptation à l'âge adulte d'un coaching sur plusieurs années. Moi, je suis convaincu qu'on pourrait dire on ne peut pas refaire une éducation. Si, je crois qu'on peut refaire une éducation. Mais ça passe par le discipolat et le fait d'accepter d'être coaché par quelqu'un qui va jouer ce rôle de parent spirituel et qui va continuer à nous donner peut-être ce qu'on n'a pas reçu dans l'enfance. Et c'est possible de rattraper ça. Mais il faudra accepter ce coaching. Il ne faudra pas être indépendantiste, hein, de ce côté-là. Il faudra accepter ce coaching-là. Moi, j'y crois de tout mon cœur à ce coaching-là. D'ailleurs, l'école chrétienne peut aussi être aussi un aspect de ce coaching-là. Hein. Donc, on l'a dit, il est sémite pour une première chose. C'est parce qu'il va dire, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Le fait qu'il ne va pas manger les cochons, mais il va désirer les caroubes. Et il est dit dans le passage, et personne ne lui donnait. Hein. Et puis finalement, il va vivre cette mort qui commence, le chemin commence par la maladie, mais se termine par la mort. Ça, c'est le chemin du cadet, c'est le chemin que le cadet emprunte, c'est le chemin qu'Israël a emprunté aussi en voulant vivre comme les nations. Et ça termine par un chemin de mort, ça c'est le message, voici les caroubes. Voilà. Alors maintenant, je vais revenir sur le retour, parce que c'est le retour qui va nous montrer quelque chose d'intéressant, le retour du cadet. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans ce retour du cadet qui nous montre cette stratégie d'évitement. Voici donc le verset qui est les trois versets que je voudrais que l'on regarde rapidement. J'ai combien de temps qui me reste là? C'est Luc, on a. Waouh, alléluia! Trois quarts d'heure, super. Étant rentré en lui-même, c'est absolument fabuleux la manière dont ça se passe, ce retour. Parce que ce retour du cadet, c'est aussi le nôtre. C'est de cette manière-là qu'on doit revenir. Regardez. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Puis là, il y a deux phrases que je voudrais que l'on questionne ensemble. « Je ne suis plus digne d'appeler ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » On va y revenir. Premier point, verset 17, très très court. Mais d'une puissance incroyable, étant rentré en lui-même, ou étant revenu à lui-même. Parce que la traduction grecque, là, c'est de l'expression de euton eis elton. De elton, eis, euton de elton, voilà. Et c'est pas Elton John, hein, c'est du grec, hein, c'est pour le coup. Et donc, la préposition eis peut vouloir dire revenir à soi-même, donc l'image d'un réveil. Vous savez, il est revenu à lui-même, il était dans le coma, il est revenu à lui-même. Et c'est vrai qu'on voit un retour à lui-même, une sorte de réveil spirituel qui se produit ici. D'ailleurs, si vous êtes calviniste, Calvin dira ceci, qu'avant que quelqu'un prenne conscience de l'existence de Dieu et qu'il revienne à lui, Dieu le ressuscite d'abord. C'est-à-dire que l'idée de Calvin, c'est que la résurrection spirituelle n'est pas au bout d'un processus, etc., qu'on rappellerait, soi-disant, la repentance. La résurrection, pour Calvin, elle est en premier lieu. C'est-à-dire que Dieu pointe quelqu'un du regard, du doigt ou du regard, il ressuscite son esprit, et c'est parce que son esprit est ressuscité qu'il se préoccupe des choses de Dieu. Et que si Dieu ne ressuscitait pas nos esprits, premièrement, nous n'aurions aucun intérêt à vouloir le chercher. C'est très très puissant dans la théologie de Calvin, cette idée que Dieu ressuscite d'abord la personne, et ensuite la personne va rentrer dans une quête. D'ailleurs, cette quête peut très bien commencer par le bouddhisme, l'islam ou quoi que ce soit d'autre, hein. Par une recherche spirituelle large. Et puis, d'un coup, cette recherche peut se spécifier. Et d'un coup, nous allons venir au christianisme parce que notre esprit, notre soif spirituelle a été restaurée. Mais une soif spirituelle ne peut exister que si, chez quelqu'un, l'esprit est encore en vie. Comprenez ? Donc, il faut bien que l'esprit reprenne vie afin que quelqu'un recherche le Seigneur, se mette en quête de lui-même. Et sans cette résurrection, finalement, la quête n'est pas possible. La quête, encore une fois, la résurrection n'est pas le produit d'une quête, la résurrection est la source même de la quête. Et du coup, ça va amener la personne à se repentir, etc. Et donc, ici, il y a quelque chose d'assez calviniste, finalement, on va voir, dans ce sens-là. Il rentre en lui-même, ça veut dire donc revenir à lui-même, dans certaines traductions, ou rentrer vers lui-même, il va vers lui-même. C'est-à-dire que ce qui est puissant aussi, c'est qu'il n'y a pas de retour à Dieu sans de retour à soi. Le retour au Père, c'est aussi un retour à soi-même. Il va falloir, le retour au Père ne peut être fonction que d'un retour vers soi-même. Et ce retour vers soi-même est aussi ce qui va nous amener vers le Père. Il y a dans Genèse 12, au verset 1, une expression en hébreu qui ça commence par, enfin, dans les parachas d'Israël, s'appelle l'er l'era. C'est-à-dire que quand Dieu dit à Abraham, va vers la terre promise, va vers la terre que je t'indiquerai, etc., il lui demande de partir d'abord, mais il ne lui donne pas l'adresse GPS. Vous comprenez? Mais dans l'hébreu, ce va, c'est l'er l'era. Et on comprend que ce n'est pas juste va. C'est l'er l'era. Alors selon certains rabbins, et là bien sûr ça peut être controversé, mais j'ai un rabbin français justement du XIIIe siècle, en Champagne notamment, a interprété ce l'er l'era comme étant va pour toi ou va vers toi. Et alors ça c'est puissant, parce que ce va pour toi, ce va vers toi, ça voudrait dire ceci, je ne te donne pas le GPS, je ne te donne pas l'itinéraire, mais quelque part, alors que tu vas vers toi-même, tu vas trouver le chemin vers la terre promise.
C'est-à-dire que le chemin vers la terre promise ne peut pas être un contournement de sa propre vie, mais passe par sa propre vie. Et tout contournement, toute stratégie d'évitement de sa propre vie va nous amener dans l'errance. Le chemin qui nous mène vers la terre promise doit nécessairement passer vers un retour vers soi. Il n'est pas de retour au Père qui ne soit en même temps un retour vers soi-même. Et il n'est pas de retour vers soi-même qui ne soit pas non plus un retour vers le Père. Hein? Donc c'est cette idée-là. On va y revenir, j'en parlerai demain matin. Combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Ce retour en lui-même va lui faire découvrir le Père. Ce qui prouve bien que le lieu de notre rencontre ne se trouve pas à l'extérieur de nos vies, se retrouve à l'intérieur de nos vies. Nous sommes le lieu de la rencontre. Cette rencontre n'a pas lieu dans une expérience mystique, dans une christophanie, mais cette expérience se fait à l'intérieur de nos vies. La plus belle christophanie que vous pouvez vivre, la théophanie, la plus belle manifestation que vous puissiez vivre, ne se trouve pas en dehors de votre vie, devant vos yeux, elle se trouve à l'intérieur de vos vies. Nous sommes le lieu de cette rencontre. C'est dans nos vies que nous devons faire cette rencontre avec le Père. Et dans cette rencontre, dans le fait d'aller vers lui-même, tout d'un coup, le mot Père réapparaît. Voilà. Dans la parabole, nous sommes au verset 18, elle a commencé au verset 11. Père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et tout d'un coup, on n'entend plus parler du Père, de la part du cadet. Et tout d'un coup, le cadet va reprononcer le mot Père, seulement après être entré en lui-même. Vous voyez le principe. Et là, nous sommes dans Éphésiens 4, 6 qui dit ceci, une parole qui est d'une puissance infinie. Le Père qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Et alors là, les théologiens, je ne vous le cache pas, se divisent sur ce verset. Certains disent, oui, mais le Père est au-dessus de tous les chrétiens. Il est parmi tous les chrétiens et en tous les chrétiens. Puis d'autres qui disent non, il y a quelque chose d'universel dans ce verset. C'est vraiment, le Père est au-dessus de toute l'humanité. Il est parmi toute l'humanité et il est en toute l'humanité. Moi, personnellement, j'aurais une certaine tendance à croire qu'il s'agit vraiment de cela. Dans le sens où, finalement, si le Christ frappe à la porte de notre cœur, c'est pour nous montrer le Père qui est en dedans de nous. Et comme nous sommes perdus vis-à-vis de lui et de nous-mêmes, il faut que le Christ vienne en nous, nous montrer ce chemin qui nous ramène vers le Père qui nous attend à la maison, à l'intérieur de nous. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix au singulier, hein, et qu'il ouvre sa porte, nous souperons avec lui. Et tout d'un coup, le « nous » réapparaît, la Trinité. Il y a une rencontre de la Trinité alors que le Christ rentre en nous. Et ma conviction, c'est que, et d'ailleurs ça m'aide beaucoup dans l'évangélisation, quand je parle à quelqu'un, je me dis, il doit avoir le Père quelque part caché en lui, perdu finalement en lui. Il est perdu par rapport à la présence du Père en lui. Je ne dis pas que le Père est présent de manière sotériologique, c'est-à-dire que le Père sauve tout le monde systématiquement, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais il y a une sorte de présence, il y a l'image de Dieu en fait, dans chacun d'entre nous, dans le pécheur comme dans le chrétien, une image qui est là, qui est abîmée, qui est effacée, et la présence du Christ, qui est l'image absolue du Père, qui rentre à nouveau dans l'être perdu, eh bien redonne l'image du Père, redessine les contours du Père en nous, et bizarrement, ce redessin du Père en nous nous redonne aussi les contours de notre propre humanité. De la même manière que le Père se redessine en nous, notre propre humanité est redessinée de la même manière. Donc, ce retour en soi va l'amener à rencontrer le Père et va lui faire considérer l'abondance du Père qu'il y a ici. Mais je voudrais juste que vous remarquiez au verset 18 combien de mercenaires chez mon Père. Mercenaires. Pourquoi il dit mercenaires? Parce que j'ai bien regardé les termes grecs qui sont utilisés ici. Ici, le mot mercenaire, c'est mystios. On retrouve ce mot mercenaire que deux fois dans la Bible. Eh bien, figurez-vous, au verset 17 et au verset 19. C'est-à-dire, le mot mystios est utilisé deux fois, et c'est seulement dans cette parabole, et c'est deux fois par le cadet. Or, dans la parabole, il y a d'autres termes qui sont utilisés. Il y a un terme qui veut dire esclave, et puis un autre terme, ou serviteur, et puis un autre terme qui parle d'un jeune homme, d'une jeune fille ou d'un jeune garçon sans importance. Ou alors, C'est ce jeune qui va à la rencontre de l'aîné et qui va donner les paroles du père à l'aîné en lui disant « Mais ton frère qui était perdu, voici, ton père l'a retrouvé à la vie et la joie qu'il a de l'avoir retrouvé, il fait une fête pour lui. » Exactement mot pour mot dans l'esprit ce que va dire en tout cas le père à la fin de la parabole. Il y a déjà quelqu'un qui l'a dit de la part du père avant alors qu'il va à la rencontre de l'aîné. Et ce mot utilisé en grec peut aussi vouloir dire le ministère d'un roi des rois, d'un roi. Oui, quelqu'un que le roi envoie, un ambassadeur. Donc vous voyez, on a en tout cas trois registres de mots dans cette parabole. Nous avons le mystios, donc le mercenaire, utilisé par le cadet et seulement dans sa bouche. Et puis quand il est question des serviteurs de l'Éternel, on a plutôt l'impression de gens qui peut-être, même s'ils sont esclaves, en fait ce sont des gens qui se considèrent comme des fils dans la maison. Donc le paradoxe, il est là. Nous avons deux fils dans cette parabole qui se considèrent comme des mercenaires, nous le verrons, et nous avons des esclaves qui, eux, se considèrent comme des fils. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit une chose très importante, c'est que même l'esclave qui est élevé, c'est dans les Proverbes, comme un fils, qui est bien élevé plutôt, qui est élevé avec bonté, l'esclave, vous comprenez, c'est ça le principe, qui est élevé avec bonté dans la maison d'un maître, s'il est bien traité, il finira par se prendre pour un fils à la fin. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous étiez mercenaire dans ce genre de maison-là, vous arrivez en disant, bon, moi je vous préviens, et vous savez la différence entre un mercenaire et un ouvrier, qui est-ce qui la connaît? Un mercenaire, si vous voulez, c'est quelqu'un qui travaille pour un temps limité. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle un saisonnier. Un saisonnier. Par exemple, est-ce qu'il y en a qui ont fait les vendanges ici? Voilà. Est-ce que tu as fait les vendanges dans un contexte où l'agriculteur ou le vigneron était un bon vigneron? Ouais. Tu avais envie de partir le soir? Oui, parce que tu avais mal aux reins, n'est-ce pas? Tu as travaillé avec un bon vigneron? Ah oui, un bon et un mauvais. Ouais, tu avais envie de rester? Oui, exactement. Voilà. Moi, j'ai vécu le mauvais aussi. Et je crois que le Seigneur a permis que je vive ça pour comprendre de l'intérieur. Tu vois. J'ai vécu les vendanges dans un GAEC. C'était vraiment l'usine, quoi. Tous les gens qui avaient une peau de couleur disparaissaient régulièrement. Bon, on ne les retrouvait pas enterrés, hein, mais je veux dire, ils étaient virés régulièrement, quoi. C'était assez bizarre. Il y avait une sorte de microcosme. C'était terrible. Il y avait une ambiance mais détestable. Ça puait le racisme, ça puait la haine, le mépris, l'exploitation, c'était terrible. J'avais qu'une envie, c'est de me barrer au bout de mes deux semaines de vendange, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, ce qui fait la réalité d'une maison, c'est la qualité de celui qui en est le maître. C'est-à-dire que si vous arrivez comme mercenaire dans ce genre de maison, là où il y a l'abondance de pain, moi, j'imagine un mercenaire qui arrive dans cette maison, qui vient et dit, il va dire au père, moi, je te préviens, je suis là juste pour 3 mois, 6 mois. Et puis, il va commencer à dire, bon, je vais ramasser mon argent, puis au bout de 6 mois, de toute façon, je me barre, hein, parce que mon but, c'est d'aller voir ailleurs si j'y suis. Hein. Il va travailler ces 6 mois, et puis, en travaillant ces 6 mois dans une maison comme ça, il va voir un père qui prend soin de ses serviteurs, mais alors, comme si c'était des enfants, quoi. Et alors, à la fin des 6 mois, le père va dire, écoute, voilà, le temps est venu pour nous de nous séparer. Écoute, franchement, j'ai tellement aimé t'avoir avec nous pendant ces 6 mois. Tiens, regarde, voici ton salaire. Puis alors, j'ai rajouté un petit peu quelque chose parce que, franchement, t'as vraiment donné de toi-même. Et puis, tiens, alors ça, c'est pour le chemin. Et puis, tu sais, ce manteau que tu auras besoin là pour l'hiver, allez, je te mets sur tes épaules. Et puis, franchement, si vraiment nos chemins se croisent, s'il te plaît, reviens nous voir. Imaginez le mercenaire. Vous savez ce qu'il va faire à ce moment-là? Il va poser le sac par terre, il va dire, écoutez, des patrons comme vous, j'en ai jamais vu. Et où irais-je maintenant, après avoir vu une telle vie dans votre maison? Je vais vous le dire une chose. Où je pourrais-je trouver ça? Moi, j'ai déjà vécu de maison en maison, j'ai déjà passé de maison, j'ai jamais vécu ce que j'ai vécu là. Alors si vous avez encore besoin de moi, moi je veux bien rester. Et là, le père, il va avoir les larmes dans les yeux, il va regarder le mercenaire qui est en train de fondre et qui est en train de devenir un serviteur dans la maison. Si on traite bien un mercenaire, à la fin, il finit de se prendre pour un fils. Ce qui fait que, vous comprenez ce que je veux dire par là, c'est que le cadet, il pense au mercenaire de son père, mais le père, en réalité, il n'a pas de mercenaire. Parce que tous les mercenaires qui sont venus ont été absorbés dans sa bonté et sont tous venus volontairement des serviteurs, voire des esclaves, mais des esclaves de l'amour, des esclaves des gens qui disent « Moi, je resterai toujours dans ta maison parce que j'ai été bien traité dans ta maison et je veux rester. » Vous comprenez, la maison du Père auquel il pense est une maison qui absorbe cette identité de mercenaire. Or, il vient de toute évidence avec une identité de mercenaire. À deux autres moments dans la Bible, le mot mercenaire est utilisé, mais cette fois-ci sous sa forme mystiotos, avec une autre syllabe. Mystiotos, c'est le fameux passage où Jésus reprend, vous savez, ces bergers qui ne sont pas des vrais bergers, qui ne sont pas propriétaires du troupeau. Quand on est trop propriétaire du troupeau, on prend soin du troupeau. Mais quand on n'est pas propriétaire du troupeau, eh bien, on est comme des mercenaires. C'est-à-dire que si le loup vient, si, etc., on se barre. Et ça, c'est les mystiotos. Et Jésus fait un réel distinction entre les vrais bergers et les mercenaires, mystiotoi. Ici, c'est mystios, et encore une fois, mystios, c'est ce qui jaillit du cœur du cadet deux fois dans cette parabole, au verset 18 et au verset 19. Et vous n'entendrez plus ce mot mystios nulle part dans la Bible, après. Nulle part dans cette parabole de Luc 15. Le mot réapparaît. Ce qui veut dire que, et ça c'est la version Darby, c'est la version Darby qui rend le plus hommage au mystios. Hein. Vos autres traductions vont mettre serviteur, un truc comme ça. Combien de serviteurs ? Ce n'est pas tellement serviteur là, c'est mystios, c'est vraiment la racine du mot mercenaire. On a la racine du mot mercenaire. Et la bouche parle de l'abondance du cœur. Oui, un mercenaire, c'est quelqu'un qui veut être là que pour un temps précis et il veut se barrer après, il veut garder sa liberté, une certaine forme de liberté. Mais qui n'est pas la vraie, on y reviendra. Point numéro 3, je me lèverai, j'irai vers mon Père. À nouveau, mention du Père. Vous voyez, dès que l'on voit la bonté du Père, l'abondance du Père, eh bien, on a envie de se lever. Et dans la Bible, l'idée de se lever est toujours liée à l'idée de la résurrection. Pensez à la vallée des ossements d'Ézéchiel, et ils se mirent sur leurs pieds. Pensez à Apocalypse, où les questions d'un agneau qui était immolé, mais qui se tenait debout. Quelle est l'image d'un agneau immolé ? Parce qu'en général, un agneau immolé, il est plutôt affalé au sol. Donc un agneau immolé qui se tenait debout, ça veut dire un agneau immolé qui est ressuscité, qui est dans la résurrection. Vous voyez, je me lèverai. Lève-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. L'image de la résurrection. Eh bien, vous voyez, le retour vers le Père est toujours associé à l'esprit de résurrection. L'esprit de mort, c'est celui qui va nous garder loin du Père. L'esprit de résurrection, c'est celui qui va nous motiver de faire sortir notre amour du coffre-fort, de donner la clé au Père et dire « Seigneur, je te donne la clé, j'ouvre ce coffre pour que tu viennes et j'accepte cette vulnérabilité pour vivre enfin une vraie rencontre avec l'amour. Mais je ne veux pas te rencontrer avec, entre nous, le coffre dans lequel j'aurais mis mon cœur pour le protéger. » Je me lèverai, donc j'irai vers mon Père et je lui dirai, et là il y a une parole, regardez, vous avez la repentance qui est là. Et c'est Romain qui le dit, c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. Vous comprenez, c'est la bonté qui peut nous pousser à la repentance. Toute vraie repentance commence par le fait de goûter. Et je voudrais définir la repentance. Je voudrais définir la repentance parce que c'est important, parce qu'il me semble qu'il y a deux manières de voir la repentance. Pour beaucoup de chrétiens, et ça a été mon cas, je le confesse, pour moi, Dieu donnait la repentance. Enfin, quand Dieu voyait la sincérité d'une repentance, alors il accordait le pardon. Et est-ce qu'il y en a qui pensent ça aujourd'hui ? Je veux dire, c'est très facile de voir la repentance comme ça. Mais du coup, vous comprenez, si nous voyons la repentance, si nous voyons le pardon de Dieu comme le résultat, comme résultant de la repentance, alors du coup, par la repentance, j'achète le pardon de Dieu. Et donc, tout est sur moi, comprenez ? Tout est sur moi, sur la sincérité. Je vais travailler la sincérité de ma repentance. Ah oui, si je rajoute un petit peu des larmes, ça serait peut-être bien, là. C'est-à-dire, ou si je pouvais déchirer mes vêtements, etc. Vous comprenez ? Il va y avoir cet effort humain qui est fait de produire une repentance qui, du coup, va me faire mériter la grâce. Mais là, on est dans le délire le plus total. Autrement dit, comment définir la repentance et le pardon ? Le pardon n'est pas la récompense d'une repentance. On se repent non pas pour être pardonné, mais on se repent parce qu'on a été pardonné. Il y a d'abord le pardon. Et c'est dans la contemplation de ce pardon, alors qu'on arrive et qu'on n'a pas encore réalisé ce que l'on a fait, quand on considère le pardon, et c'est ce qui est arrivé dans ce groupe d'étudiants là, avec Luc, dans cette étude biblique, là, dans cette chambre d'étudiants, je me rappelle, quand j'ai vu le regard, je pensais franchement que j'allais voir un Dieu en colère, vous comprenez ? Avec tout ce que j'avais fait, je m'attendais à voir, me dire, bon, viens voir un petit peu, Seigneur, est-ce que tu existes ? Mais je m'attendais à me mettre en présence de Dieu, mais attends, si Dieu se montre à moi, il va se montrer forcément en colère. Et quand je me présente devant le Seigneur, je sais pas, c'est pas une vision, comment vous dire, c'est une impression intérieure forte que je m'attendais à voir quelqu'un qui allait être en colère. Et au lieu de ça, je vois quelqu'un qui m'a pardonné, je vois quelqu'un qui est désolé, parce que tout ce que j'ai fait, bien sûr, a grévé ma relation avec lui, mais a détruit ma vie surtout, et a détruit des relations autour de moi. Tout d'un coup, quand j'ai vu ça, mais je me suis mis à pleurer. Je n'ai pas cherché à produire ces larmes. Elles ont coulé parce que j'étais en présence du pardon qui était déjà fait. J'ai déjà été pardonné. Mes amis, tout est accompli sur la croix. Une des sept paroles de la perfection de la croix, c'est « tout est accompli ». Le pardon est accompli. Et lorsque quelqu'un vient, il vient constater que le pardon a déjà été fait. Et là, j'ai craqué devant ce pardon qui a déjà été fait. J'ai fondu en larmes devant ce pardon. Vous voyez, la bonté, où méprises-tu les richesses de sa bonté qui te pousse à la repentance ? Qui te pousse à la repentance. Et franchement, moi je crois que ça aurait été bien qu'il arrête au point 4. Vous savez, ce que j'ai envie de dire, c'est quand l'Esprit parle au travers de vous, suivez l'Esprit, puis après, s'il vous plaît, fermez-la. Quoi. Vous savez, ça vous est jamais arrivé dans nos milieux charismatiques, vous savez, il y a quelqu'un qui commence à prophétiser dans l'Église, vous sentez les goosebumps, là, l'onction, waouh, une parole de Dieu. Puis le prophète parle, puis vous êtes là, parle, puis tout d'un coup il s'arrête. Puis... Comment est-ce possible que vous commencez par vibrer à la parole prophétique, puis à un moment donné, vous êtes trop content que le prophète ait cessé de parler? Comment est-ce possible? Eh bien tout simplement, c'est qu'au moment où l'Esprit est venu sur le prophète a d'abord eu la trouille. Il dit, Seigneur, tu veux vraiment que je parle? Oui, oui, tu vas dire ça. Et puis tu vas sauter sur la planche, puis tu vas surfer sur la vague de mon esprit. Alors le prophète, dans sa faiblesse la plus fondamentale, va sauter sur la planche comme ça, puis va commencer à parler de la part de l'Éternel. Puis tant qu'il est dans déséquilibre comme ça, en dépendance de l'esprit, waouh, il parle, puis là, il y a l'onction. Puis tout d'un coup, la planche arrive sur le sable. Puis là, il dit, waouh, il m'écoute. Je vais prendre un petit peu de gloire au passage. Et puis il continue, blablabla, il va expliquer la prophétie, blablabla, parce qu'il a compris, blablabla. Et en fait, il est en train de prophétiser que la planche est sur la plage. C'est ça qui est chiant, tu comprends ? Tant que le gars est en train de surfer, c'est génial, tu sens l'onction. Mais quand le gars est en train de se servir au passage de sa propre gloire pour punaise, mais franchement. Donc en fait, j'ai un conseil. Si vous voulez, nous chrétiens, on est des facteurs, on donne le courrier, mais on n'ouvre pas la lettre devant les gens pour la lire. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis leur expliquer en plus ce qu'il y a dedans. Quoi. Vous donnez le message, puis vous arrêtez. C'est-à-dire, tant que l'esprit parle, vous parlez. Mais quand l'esprit a fini de parler, s'il vous plaît, fermez-la. Quoi. Fermons-la, quoi, parce que c'est terrible si on commence à se servir au passage. Et moi, je crois, honnêtement, que dans les deux dernières parties, alors que la tradition nous a montré ces deux parties comme étant l'apanage même de l'humilité, eh bien, en réalité, pour moi, c'est une œuvre de la chair. Et c'est important que l'on le détermine très, très clairement. C'est-à-dire que, pour l'instant, je vous demande juste de me prêter attention. Mais si j'ai raison, il faut que je le prouve. Pour l'instant, je voudrais juste méditer. Il reste à peu près une dizaine de minutes. 5 minutes, je voudrais méditer avec vous. Puis dans les 5 dernières minutes, je vous donnerai la preuve. Moyennant finance, bien entendu. Non, c'est pas... Donc, les 5 premières minutes, essayons de méditer pourquoi ça pourrait être finalement de l'orgueil. Alors que tout respire une forme d'humilité. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ici, on n'est pas dans l'humilité, on est dans le mépris de soi. Or, dans l'exaltation de soi et le mépris de soi, en réalité, c'est la même réalité. C'est-à-dire, c'est l'orgueil qui est en charge. Parce que l'humilité, ça consiste à être pleinement ce que l'on est en Christ. Pas être en dessous de soi, pas être au-dessus de soi. Être au-dessus de soi, c'est de l'orgueil. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Mais réaliser qu'être en dessous de soi, c'est aussi de l'orgueil. Parce que dire des choses inférieures de ce que Dieu dit de nous-mêmes, c'est une désobéissance fondamentale et c'est de l'orgueil aussi. Donc il y a de l'orgueil là et il y a de l'orgueil là. En Christ, Paul parle dans l'humilité qu'il dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ça, c'est l'humilité qui parle comme ça. C'est-à-dire, non pas cette sorte d'autosatisfaction de soi-même, mais le fait de se positionner dans la grâce. Par la grâce de Dieu, ben, je suis ce que je suis. Ni pas là, ni pas là non plus. Donc du coup, je ne me compare pas aux uns aux autres. Je me compare seulement par rapport à la grâce, uniquement par rapport à la grâce. Dans la grâce de Dieu, voilà ce que je suis en Christ Jésus. Ni là, ni là. Je suis là. Ce qu'un chrétien a appelé la meilleure version de nous-mêmes. Pas la version exaltée de nous-mêmes, pas la version diminuée de nous-mêmes, la meilleure version de nous-mêmes, en Christ Jésus. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, tu es la meilleure version de toi-même. En Christ Jésus. Pardon ? Oui, exactement. Exactement. Le cadet me présente la version diminuée de lui-même. L'aîné, la dette, l'aîné représente la version maximalisée, tu vois, de lui-même. Et le fils représente la version réelle de l'humanité. Passons, alors, le point 5, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Honnêtement, ça, ce n'est pas un scoop. Franchement, ce n'est pas un scoop. C'est-à-dire, qui, dans sa nature humaine, est digne d'être appelé fils de Dieu ? De lui-même. Donc, je veux bien encore vous accorder que le point 5, c'est une déclaration. Franchement, ça ne sent pas la révélation, dans le sens, oui, personne n'est digne ici d'être appelé fils de Dieu. Personne. Cette dignité ne vient pas de nous, dans ce sens-là, comprenez ? Ce n'est pas nous qui nous rendons dignes au point de devenir enfant de Dieu. C'est lui qui nous a rendus dignes, comprenez ? Cette dignité ne vient pas de nous, elle vient de lui. C'est ce qu'on appelle l'adoption, précisément. Et encore une fois, il vaut mieux être adopté par un père qui est relationnel qu'être le fils d'un père biologique qui ne l'est pas. Et quand Jésus parle des fils du diable, je pense que c'est ça dont il voulait parler. Parler d'une sorte de nationalisme, une forme de biologie. On se réclame d'une biologie, mais sans relation finalement. Alors que l'adoption, c'est de se réclamer de quelque chose qui n'est pas biologique, qui est complètement scandaleux, mais dans lequel existe une vraie relation. Et cette relation, c'est elle qui me réhabilite, en fait, et qui me donne la dignité d'être fils de Dieu. Cette dignité ne vient pas de mes qualités, elle ne vient pas non plus de mes disqualifications ni de mes qualités, elle vient du choix du Seigneur. Le Seigneur, par son choix souverain sur ma vie, fait de moi un fils ou une fille. Et c'est le cas pour chacun d'entre nous ici. Vous n'avez pas mérité votre filiation, vous l'avez reçue comme un cadeau. C'est ça l'adoption. Vous croyez que quand des parents, par exemple, vont au Vietnam ou dans un pays et adoptent un enfant comme ça, vous croyez que l'enfant mérite d'être adopté ? L'idée d'adoption est complètement étrangère à l'idée de mérite. Les parents n'adoptent pas un enfant parce que l'enfant mérite d'être adopté. Même dans l'humanité, cette notion serait choquante. Et pourquoi nous leur réintroduisons cette question de mérite dans notre relation avec le Père, alors que le Père est celui qui nous adopte. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose de l'adoption qui est bien supérieur à la biologie, encore une fois ici. Donc, ce n'est pas un scoop, c'est une parole humaine. J'ai envie de mettre un H devant, parole humaine. D'ailleurs, est-ce que la Bible a des paroles humaines ? Il y a des paroles humaines dans la Bible ? Eh oui ! Oui, il y a des paroles humaines. On voit qu'il y a des gens qui disent des choses. Des fois, c'est franchement purement humain, quoi. Et puis, dernière parole, et c'est là que je voudrais m'arrêter pour les 5 dernières minutes. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Pourquoi cette parole qui ressemble à de l'humilité n'en est pas, et finalement, elle le comble de l'orgueil ? Parce que déjà, elle commence par un ordre. Traite-moi. Le mot « moi » d'ailleurs apparaît une deuxième fois, parce que la première fois, c'était « donne-moi la part de l'héritage ».« Donne-moi », et là, on a « traite-moi ». Vous voyez ? Dites avec moi. « Traite-moi, donne-moi, traite-moi, donne-moi ». Allez-y. Voilà. Ça, c'est la nature humaine déchue. C'est l'être humain déchu qui parle comme ça. « Donne-moi, traite-moi, donne-moi, traite-moi ». Autrement dit, là, nous sommes en présence d'un perdant qui revient à la maison du Père. Et au lieu d'être celui qui reçoit l'ordre, il est celui qui se met à donner des ordres. Il y a quelque chose d'absolument, intolérable. Ce n'est pas lui qui est dans l'état de donner des ordres, vous ne croyez pas ? Il est plutôt dans l'état de recevoir l'ordre du Père. Or, ici, il va donner l'ordre, il va donner un ordre à son Père. « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » J'ai envie de dire, mais mon fils, il n'y a pas de mercenaires dans ma maison. Tous ceux qui sont rentrés comme mercenaires sont devenus des fils à la fin. Parce qu'ils ont tellement été bien traités. Où est-ce que tu vois des mercenaires ? Regarde autour de toi, où sont les mercenaires ? Ah oui, c'est vrai, je n'en vois pas. Tu sais où il est le mercenaire ? Il est dans ton cœur. C'est pour cette raison que tu vois des mercenaires partout autour de toi. Tu viens comme un mercenaire, tu ne viens pas comme un fils. Or, regardez bien pourquoi je crois qu'il y a un changement, il y a une schizophrénie spirituelle là. Vous la voyez la schizophrénie spirituelle ? Jusqu'au verset 19, au moitié du verset 19, vous avez trois fois la notion du mot père. Regardez, père, père, père. Pourquoi trois fois ? À cause de la Trinité, bien sûr. Et à cause du fait que dans les cieux, les anges disent « Saint, Saint, Saint ». Et le Seigneur, trois fois aussi. Hein. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Toujours trois fois, pas quatre, pas deux, trois fois. Ici, on a trois fois la notion de mon Père. Mon Père, mon Père, mon Père. Et ce n'est pas le Père, c'est mon Père, mon Père, mon Père. Abba, Abba, Abba. Et tout d'un coup, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. C'est-à-dire que si, vous comprenez ce qui se passe, le problème c'est que le regard que nous posons sur nous, si après avoir dit « mon père », nous commençons à dire « je suis mercenaire, je veux être traité comme un mercenaire », à ce moment-là, mon père cesse d'être mon père et devient mon boss, devient mon maître, mon patron. Alors vous allez dire « oui, ben oui, pourquoi pas après tout ». Mais attendez les amis, avant que Dieu devienne votre maître, il faut d'abord qu'il soit votre père. Parce que quelque part, c'est pas... Vous me direz, les serviteurs, c'est le chemin de la maîtrise du père qui a fait d'eux des fils à la fin. C'est sûr. Si nous sommes maîtrisés par quelqu'un qui est bon, nous allons devenir des fils. Mais ce que je voudrais dire, au fond, c'est pas tellement de son côté, c'est de notre côté. Comment deviendrons-nous les meilleurs serviteurs, les meilleurs disciples, les meilleurs serviteurs, les meilleurs esclaves quelque part ? Bien, si nous rencontrons un père d'amour, nous serons esclaves dans des liens d'amour. Nous comprenez ce qui va faire de nous les plus grands serviteurs sur la terre, c'est parce que nous aurons rencontré le Père. Le chemin qui fait le plus grand serviteur que la Bible ait connu, c'est Jésus-Christ. Or, ce Jésus-Christ, c'est le Fils. Autrement dit, la puissance du service est fonction énormément de qui nous avons rencontré. Si nous rencontrons le Père, je suis convaincu que ça va décupler notre puissance de service. Mais si nous rencontrons un maître, le danger, et si nous voulons voir qu'un maître dans ce Père-là, le danger, c'est que ça réactive en nous-mêmes une mentalité de mercenaire, de mistioi, de mistios, hein, ici. Traite-moi. Donc, regardez, premier paradoxe, traite-moi. Il donne un ordre au lieu d'en recevoir. Deuxième paradoxe, il dit mercenaire. Alors que s'il devient mercenaire, il n'est plus fils. On ne peut pas être mercenaire et fils. Donc la question, finalement, qui se pose ici, c'est est-ce que cette phrase, elle vient de l'esprit ou elle vient de la chair ? Ma conviction, c'est que cette phrase vient de la chair. Oui, vous me direz, mais Pierre, c'est quand même une parole biblique, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire le modèle de la véritable humilité ? Mais si c'est une parole biblique, si c'est une parole dans la Bible, si on porte un regard fondamentaliste sur ce verset, on va dire, c'est biblique. Oui, nous, les évangéliques, on dit, c'est biblique. Hein. Attention, c'est biblique. Hein. Traite-moi comme l'intermercenaire, c'est biblique. Hein. Mais le fait que quelque chose soit biblique, est-ce que ça veut dire que c'est forcément, fondamentalement, juste ?
D'ailleurs, allez, je vous choque. J'y vais jusqu'à fond. Je vais vous choquer. Est-ce qu'il y a des versets sataniques dans la Bible ? Ouh, Pierre est en train de lancer une bombe. Y a-t-il des versets sataniques dans la Bible ? Mais bien sûr qu'il y a des versets sataniques. Pourquoi Dieu permet-il au diable de parler dans la Bible ? Pour qu'on comprenne comment le diable s'y prend. Regardez dans la tentation des airs, est-ce que le diable ne parle pas ? Est-ce que ses paroles ne sont pas des versets sataniques ? Or, c'est encore pire, c'est qu'il cite la parole de Dieu, le diable, quoi. Donc du coup, quand le diable cite la parole de Dieu, depuis un mauvais esprit, la parole de Dieu n'est plus parole de Dieu, elle devient parole pour tromper. La vérité devient un instrument de tromperie pour nous montrer sa subtilité. Sa subtilité. Et puis à d'autres moments, le diable va parler. Est-ce que la chair, est-ce qu'il y a des versets charnels dans la Bible ? Quel est le bouquin qui en est rempli le plus ? Le livre de Job, exactement. Il y a un moment donné, quand les consolateurs commencent à parler, chapitre après chapitre, ça donne à peu près ça. Chapitre après chapitre, comme ça. Et à un moment donné, quand les consolateurs se taisent, c'est comme le prophète sur la plage, tu sais. Et tout d'un coup, quand Dieu reprend la parole, tu respires à nouveau dans le livre de Job. Il y en a qui ont vécu ça déjà ? Personne n'a parlé comme a parlé mon serviteur Job. Et d'ailleurs, il faudra que Job prie pour ses copains après. Mais alors, ses copains étaient très savants sur la manière pour lui expliquer les causes de ses souffrances. Tu sais. Mais peut-être que si t'es arrivé ça, c'est peut-être pas tout à fait un hasard. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ici, à mon avis, on a de l'esprit jusqu'au quatrième point, on a de l'humanité au verset 5, au point 5, pardon, et puis au point 6, on a blablabla. C'est-à-dire qu'en fait, on a quelqu'un qui va donner des ordres au Père. Et la question que je voudrais que vous posiez avant de vous donner la preuve de ce que j'avance, c'est, à votre avis, pourquoi il veut être traité comme un mystioï, comme un mercenaire ? Pourquoi ? Exactement. Première bonne réponse, pour rester libre. Garder le contrôle. Pour quelle autre raison ? Pour pouvoir manger. Oui. Il a faim, ouais. Mais ne méprisons pas ce point-là. Hein ? Parce que tu sais, il y a des gens qui m'ont dit, regarde, il est intéressé. Attends, franchement, quand quelqu'un a faim, est-ce qu'on peut parler d'intéressement ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est, vous savez, soupe, savon, salut. Vous connaissez ? Hein ? C'est les soupe, savon, les trois S de l'armée du salut. C'est bien dans le bon ordre. Soupe d'abord, savon ensuite, salut après. Donc, ce soupe, savon, salut, on le voit aussi quelque part, hein, en filigrane. Pour moi, ça serait une motivation positive de vouloir manger. Mais je pense qu'il y a une autre raison. Voilà, très bien, Manu. Il veut régler sa dette par lui-même. Il veut rembourser l'héritage qu'il a dilapidé. Il ne veut pas de la gratuité du Père. Il veut mériter, il veut construire sa propre image de lui-même basée sur ses propres mérites. Je veux retourner à la maison du Père en méritant ma propre positionnement. Et maintenant, si c'est vrai, et pourquoi c'est important qu'on voit si c'est vrai ou si c'est faux ? Parce que si c'est faux ce que je dis, alors les amis, vous devez pratiquer cela. Ça veut dire que c'est vraiment l'Esprit Saint qui parle. Si c'est l'Esprit Saint qui parle jusqu'au point, alors vous devez pratiquer ce genre de dénigrement de vous-même pour être accepté du Père. Vous devez le pratiquer, comme d'ailleurs le Mali le pratique. Vous savez, un jour j'ai enseigné ça au Mali dans une formation d'enseignants chrétiens et de directeurs chrétiens. Tout d'un coup, il y a une rumeur comme ça. C'est la première fois. Pourtant, les Maliens sont des gens très très corrects, hein, Luc, d'un respect bien plus grand que nous occidentaux. Hein. Mais alors, puis tout d'un coup, il y a une sorte de rumeur. Vous savez, ça a créé le bazar, ce que je venais de dire, quoi. Et puis je dis, mais je peux savoir ce qui se passe ? Il y avait une rumeur sur 400 personnes. Je ne sais pas si vous imaginez. Il dit, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Je ne pouvais plus en placer une. Ça, c'est très rare en Afrique. quand la rumeur, d'un coup, il y a un frère, et ça se fait bien aussi en Afrique, qui prend la parole pour tout le monde. Mais Pierre, vous vous rendez compte de ce que vous nous dites là ? J'ai dit, oui, je crois. Il dit, parce que nous, tous les dimanches, nous commençons le culte par le verset 19. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et quelques années après, on apprend que Boko Haram, l'islam, entre au Mali. Vous savez, nos réponses à nous chrétiens, elles créent des autoroutes. Nos réponses intimes, elles créent des autoroutes pour qu'un autre esprit que l'adoption rentre, l'esprit de l'esclavage. Soit nous acceptons l'adoption et c'est le père qui rentre en France. Soit nous refusons l'adoption et nous maintenons cet esprit de mistioï, de mercenaire et nous ouvrons une autoroute à l'esprit de l'islam. Alors je leur ai dit, mais vous savez les amis, je vous propose autre chose. Commencez vos cultes par le verset 19, mais avant le point 6, arrêtez-vous s'il vous plaît. À la rigueur, dites, mon père, je me lèverai, j'irai vers mon père, je dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne me sens pas digne d'être appelé ton fils, mais à cause de ton appel sur ma vie, je suis devenu ton fils. À cause de ton appel sur ma vie, je suis ton fils. Maintenant, voici la preuve. Vous allez lire, prendre votre Bible. C'est vous qui allez la trouver, la preuve. Vous allez prendre votre Bible, Luc 15, verset 19, et vous allez comparer avec le verset 21. Okay ? Et dites-moi ce que vous découvrez. Et nous terminerons par ce point-là. Par la preuve. Nous allons voir si cette parole est vraiment une parole de l'esprit ou une parole de la chair. Donc je vous demande de comparer ces deux versets. Dans le verset 19, nous sommes avant le retour. Dans le verset 21 que vous allez lire maintenant aussi et vous allez faire cette comparaison, le verset 21, nous sommes après le retour. Avant, après. Et dites-moi si vous ne remarquez pas quelque chose. Si vous remarquez quelque chose, vous levez votre main là où vous êtes. Super. Les jeunes ont vu quelque chose. C'est bien, les gars. C'est bien les filles. Je suis ravi que vous l'ayez vu. Allez, qui a vu ? Levez à nouveau votre main. Oui, super. Là-bas, excellent. Là-bas, excellent. Oui, il y a une vertu à vous laisser trouver. Je pourrais vous le dire tout de suite, mais je trouve que c'est tellement mieux si c'est vous qui le découvrez vous-même. C'est une vertu pédagogique. Super. Excellent. Quelle différence entre le verset 19 et le 21 ? Essayez de le regarder dans le contexte. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Tu as trouvé ? Non. On vous aidera hein, si vous ne trouvez pas. Mais je voulais chercher encore un petit instant. Puis à cause du temps, je devrais... Je ne pense pas, non. Non, je ne pense pas. Non, toutes les traductions rendent compte de ce fait-là. Normalement. Hein. Et il y a même une tradition qui a mis un élément de ponctuation. Je crois que c'est la Bible du Semeur. Est-ce qu'il y en a qui ont la Bible du Semeur ici ? Si tu as la Bible du Semeur, je crois qu'il y a un élément de ponctuation qui montre une vérité, une réalité. Excuse-moi, Luc, j'ai shooté dans ton... Allez, on donne la parole à un jeune homme et une jeune fille. Tu veux bien ? Et, tu peux venir vers moi, s'il te plaît ? Mon fil n'est pas... Pas assez grand. Dis-moi ce que tu as trouvé.
Qui termine pas la phrase, il dit pas en fait traite-moi comme l'un de tes mercenaires, il dit juste je ne suis pas digne d'être ton fils et le père le coupe après.
Waouh, excellent. On l'applaudit. Waouh. Bravo. Excellent. Ce n'est pas la chair et le sang qui révèlent de choses pareilles. Regardez bien le principe. Au verset 19, il a l'intention de dire traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Au verset 21, il commence à dire les mêmes choses. Mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, la repentance. Le père lui laisse dire, parce qu'il a médité sur l'abondance. Il lui laisse dire cette parole humaine, parce que je pense qu'il est important que nous réalisions que cette dignité ne vient pas de nous. Mais par contre, il ne va pas lui permettre de dire la dernière phrase. C'est-à-dire, il refuse du Père de le laisser dire la dernière phrase. Autrement dit, ce que je crois, c'est que dans ce refus du Père, il y a l'idée que, vous savez, dans la Trinité, par exemple, quand le Père parle, le Fils et l'Esprit écoutent. Quand l'Esprit parle, le Père et le Fils écoutent. Quand l'Esprit parle, enfin, vous avez tout compris, quoi. En résumé, dans la Trinité, on ne se coupe pas la parole. On ne se coupe pas la parole, sauf en France, on se coupe beaucoup la parole à cause de notre arrogance, à cause du fait qu'on s'est divinisé nous-mêmes et on voit la divinité comme le fait qu'on se coupe la parole. On a raison sur les autres, on ne sait pas s'écouter. C'est typique de la France, ça. Quand je suis en Suisse, je suis humilié chaque fois que je vois des Français en Suisse. Vous savez à quoi on reconnaît un Français en Suisse ? Vous savez à quoi on reconnaît un Français en Suisse ? Ben, c'est le premier qui coupe la parole aux autres. Parce qu'en Suisse, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'on a médité sur la Trinité ou quelque chose comme ça, mais on sait s'écouter. On n'est pas pressé de couper la parole aux autres. Tu vois. Hein ? Et donc, vous voyez, cette parole ne peut pas être une parole de l'esprit pour cette raison très simple, que si cette parole avait été une parole de l'esprit, le Père aurait permis à ce que cette parole de l'Esprit soit prononcée. Donc vous voyez la stratégie d'évitement, et je termine là, maintenant, je vous le promets, cette stratégie d'évitement vient qu'alors qu'il va vers le Père, et nous verrons le contexte dans lequel il s'apprêtait à dire la parole, nous le verrons cet après-midi, vous verrez, c'est très choquant, vous verrez deux choses cet après-midi. Comment le cadet, dans quel contexte le cadet s'apprêtait à dire cette parole, déjà, c'est même risible. Et puis deuxième chose, c'est comment le Père lui coupe la parole ?